Avant de démarrer cet épisode, je vous rappelle que pour montrer votre soutien au podcast, il vous suffit de vous y abonner via votre plateforme d'écoute préférée. N'hésitez pas également à nous laisser 5 étoiles et à rejoindre Slice sur ses pages LinkedIn, Facebook et Instagram. Merci beaucoup! Bonjour à tous et bienvenue sur Slice, le podcast qui vous parle de l'entrepreneuriat. J'ai la chance d'être entourée quotidiennement par des gens tout à fait fascinants. Des hommes et des femmes, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui se sont lancés avec la conviction d'avoir la bonne idée, la motivation, l'envie d'innover qui mèneront leurs entreprises et leurs équipes sur le chemin du succès. L'important, c'est le voyage, semble-t-il, alors ce chemin, il m'intéresse beaucoup. Le résultat de ma curiosité, le voici, c'est Slice, le podcast. On parlera ici de réussite et d'échec, d'innovation, d'industrie, de création et de reprise d'entreprise, et au final, de la vie, tout simplement. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 26e épisode de Slice. Aujourd'hui, je suis reçue par David Laurin, le patron de Recycle Livre, qui est la première librairie de livres d'occasion online de France. Avec David, nous sommes revenus bien évidemment sur son parcours et sur ses premiers jobs entre trading, gestion des médias pour l'America Cup et organisation de courses automobiles. Une vie professionnelle bien remplie donc, qui a pris un tournant en 2008 quand David décide de faire du vide dans ses bibliothèques pour gagner un peu d'espace dans son appartement parisien. C'est ainsi que naît Recycle Livre à 4h du matin un samedi avec la vente de son premier livre, Les Découvreurs de Daniel Burstein. Recycle Livre, ce n'est pas qu'une librairie, c'est également un projet et un engagement, et c'est l'exemple même qu'on peut gagner de l'argent en respectant l'humain et la planète, en œuvrant par exemple pour l'insertion professionnelle d'hommes et de femmes éloignés de l'emploi ou porteurs de handicap. David nous parlera de son management et du concept d'entreprise libérée, du temps qu'il prend pour lui et pour sa famille, et de sa nouvelle entreprise Bilberry Team, qui propose un logiciel de gestion d'entrepôt et une solution d'organisation de tournées et de traçabilité. Un beau et vaste programme pour cette entreprise engagée, labellisée Bicorp et membre de Mouvement Impact France. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une très bonne écoute.
Et puis voilà, bah écoute, si t'es ready, moi je suis ready.
Ouais, c'est bon.
Ok, donc bonjour David.
Bonjour.
Merci beaucoup de me recevoir chez Recycle Livre, rue de la Boule Rouge à Paris, pour me parler de ton aventure entrepreneuriale, de Recycle Livre et de ton autre entreprise qui s'appelle Bilberry Team. Tu le sais, on en a parlé hors micro, je commence toujours mes interviews par la même question. Je voulais savoir qu'est-ce que tu voulais faire comme métier quand tu étais petit.
Alors, quand j'étais petit, je voulais être patron.
Au moins, c'est dit, d'accord.
Évidemment, pas avec des mots d'enfant, c'était pour mon mot d'enfant pour entrepreneur. Voilà. Ouais, donc
c'est mais pourquoi patron, tes parents étaient à leur compte?
Pas du tout.
Ou est-ce que comment tu connaissais?
Pas du tout. Après, je pense qu'on a été élevé, mes sœurs et moi, dans un esprit assez libre d'être voilà, que la liberté était importante et de pouvoir choisir un petit peu d'avoir le choix dans la vie, et donc ça commence par assez tôt aussi par être pas trop mauvais à l'école,
ouais.
Même s'il y a plein d'autres réussites de personnes qui n'étaient pas bonnes à l'école, mais en même temps si on est bon à l'école on s'offre ce choix là c'est plus facile. Voilà, moi je pense que dans ma vie j'ai eu envie de, et dans mes expériences précédentes, de créer. Voilà, dans ma bouche d'enfant, patron, ça voulait dire celui qui avait créé quelque chose et qui mettait en.
C'est vraiment la création, pas je possède quelque chose, c'est
non,
à moi.
C'est plus
laisser ta créativité s'exprimer. Ok, ouais. Donc tu parlais de l'école, tu suis un cursus normal.
Un cursus normal, sans être mauvais, sans être très bon.
Tu fais une filière quoi? À l'époque, c'était SLES ou non?
Oui, moi je fais un bac D. Donc,
okay.
Première S, bac D, je n'étais pas assez bon pour faire un bac C.
C'est quoi bac D?
En fait, à mon époque, pardon, il y a longtemps, j'ai eu mon bac en 91.
Ah oui, d'accord.
Il y avait une première S scientifique, et puis après, il y avait une autre orientation, C ou D.
D'accord.
Et C, c'était mathématiques physiques, et D, c'était mathématiques, sciences de la vie, biologie, quoi.
Ah, ok, d'accord, oui.
Et donc, normalement la filière c'est première S bac C,
ouais.
Et moi j'étais pas suffisamment bon, donc j'ai fait première S bac D.
Ok, avec de la physique, des sciences,
voilà.
Sonates.
Et puis après, moi je suis parti, après je suis parti, j'étais au Mans, j'habitais au Mans.
D'accord.
Donc après je suis parti à la fac au Mans en éco.
C'était facile à choisir, c'était une évidence, ou est-ce que tu avais une idée de métier arrivé en terminale?
Plus par défaut, c'était plus par défaut qu'autre chose, et plus par élimination qu'autre chose.
Okay.
J'avais pas envie de faire médecine, j'étais pas assez bon pour faire une école d'ingénieur.
Okay.
Je suis pas sûr que c'est vraiment le truc qui me plaisait.
Ouais.
Donc, voilà, donc c'était une filière un peu généraliste.
Okay.
Et puis après, je suis arrivé à Paris en admission parallèle, j'étais à Dauphine.
Okay.
Donc là, un peu plus.
Parce que tu voulais quitter le Mans ou c'était juste pour suivre d'autres cursus que proposer.
C'était pour quitter et puis essayer d'aller dans un endroit un petit peu plus. Pas dire élitiste, mais à un niveau un peu plus élevé, quoi.
Voilà, plus renommé, on va dire. Voilà, ok.
Encore une fois, pour avoir la possibilité de pouvoir avoir plus de choix à la sortie des études.
Avec une meilleure fac, avoir un tampon plus prestigieux.
Et puis de se dire,
on a des portes ouvertes sur plein de choses.
On a un choix
peut-être
un peu plus ouvert que si on avait fait sa maîtrise d'économie au Mans.
Au Mans.
Voilà.
Bonjour à tous les gens du Mans. Et ça t'a plu ?
Et donc j'arrive à Dauphine en admission parallèle, je fais ma licence maîtrise, et puis après je pars en Angleterre, après je pars travailler sur les marchés financiers parce que j'avais évidemment pas oublié cette idée d'être patron, et se dire en fait c'est un moyen rapide de gagner de l'argent, suffisamment d'argent pour être pour gagner de l'argent, mais pour être un moyen pour pouvoir être libre, de pouvoir créer
ce qu'on
veut.
Tu veux.
Et de dire, en fait, une des composantes quand même pour créer, c'est d'avoir... l'argent en fait partie. Mais je commence à bosser à 22 ans, à 24 ans, j'arrête. Je me dis, c'est pas possible, je peux pas arrêter.
Comment tu trouves ce boulot à Londres et qu'est-ce que tu fais concrètement? C'est quoi le boulot? T'es un trader, en fait.
En fait, ce boulot, c'est ce qu'il y avait encore à mon époque. C'est encore une... longue.
Et il y avait plus le service militaire.
Moi j'étais à la fin. Moi j'ai plein de copains qui l'ont pas fait. J'ai plein de copains qui l'ont pas fait parce qu'ils ont repoussé au maximum. Moi j'étais à la limite. J'aurais pu repousser aussi.
Ouais.
Mais j'ai trouvé une coopération donc à Londres.
Ok. Ah oui, c'est comme ça que t'arrives à Londres.
Dans une banque.
Oui. Et tu faisais quoi concrètement? C'était quoi ton job?
C'était passionnant. C'était je vendais des taux d'intérêt. C'était avant l'euro. Donc, en francs, en Deutsche Mark, en dollars. Donc on avait des courtiers au téléphone et il fallait fallait emprunter de l'argent ou prêter de l'argent. Quoi. Voilà.
Ok.
Donc c'était pas très intéressant intellectuellement.
Pourtant la vie londonienne.
Ah non, mais ça c'était sympa.
Ça c'était sympa.
J'ai passé des très bonnes années à Londres avec plein de copains et tout. Ça c'était sympa, mais. Mais intellectuellement, c'était assez pauvre. Et donc, je me suis dit, je ne peux pas rester dans ce métier jusqu'à... Parce que je m'étais donné comme objectif 30 ans, en fait, pour monter une boîte.
Ah oui. Okay.
Et donc, je me dis, mais non, je ne peux pas rester encore 6 ans là. Il faut que je fasse autre chose.
Et tu gagnais vraiment bien ta vie?
Je pouvais gagner bien ma vie, après, bon, c'est pas...
Mais bon, ça fait pas tout.
Non.
Voilà.
Et...
Ça dure quand même 2 ans.
Ça dure 2 ans.
Tu tiens 2 ans.
2 ans. Après, je rentre en... Donc, je rentre en France et là, je pars organiser des courses automobiles au Portugal.
Ah, comment tu te retrouves dans le sport automobile? Parce que la transition est intéressante.
En fait,
hein,
c'est parce que moi, j'aimais bien l'événementiel. J'aimais bien, comme j'ai dit au début, créer, avoir des choses, un début, une fin.
Mm-hmm.
Et à Dauphine, je me suis occupé notamment d'une course de voile, d'un événement sportif à l'université pendant que j'étais là-bas. Ça m'a bien plu, et donc je cherche du boulot là-dedans, et voilà, c'est là où j'en trouve.
Tu postules, t'es
prêt. Et donc
prêt.
Là, je suis entre le Portugal et la France, là, pendant un an.
C'est pour Renault Sport, non?
Ouais, pour Renault Sport, des courses automobiles sur le circuit d'Estoril. Ouais.
D'Estoril au Portugal,
du coup.
Et donc concrètement, tu organises la course?
J'ai organisé tout l'événement, une semaine d'événements. Donc c'était assez sympa. Après,
croiser des pilotes, le public, peut-être les sponsors aussi.
Oui, mais c'était surtout moi, ce qui me plaît dans ce que je fais, dans ce que je suis. C'est pas tellement la représentation, machin, mais c'est plus... c'est ce que je fais aussi chez Recyclive, c'est résoudre des problèmes et résoudre un problème et de se dire bah, en fait on a résolu un problème, on fait que ça marche et puis ça,
puis
c'est satisfaisant.
Roule, et puis c'est, ouais, c'est ça, ça qui est satisfaisant. Ouais. Et tu fais ça combien de temps?
Ça, je fais ça un an, un peu plus d'un an, un an et demi.
Et pourquoi tu pars?
Et pourquoi je pars? Parce que la personne qui avait cette boîte-là était un peu caractérielle et un petit peu...
spéciale.
Spéciale, voilà. Elle n'est plus de ce monde à ce jour. Donc,
bon,
voilà.
Oui. Mais c'est mais, compliqué. Voilà, les relations sont peut-être compliquées.
Voilà. Et donc.
Ouais. Vaut mieux.
Et on est en 99-2000. Donc, ouais. Ça, c'est la première bulle Internet.
Ouais.
Moi, il se trouve que j'ai eu la chance depuis mon très jeune âge d'avoir un ordinateur à la maison. Si on repart encore dans les choses de première S, etc. Mais c'était bien avant parce que c'était au. C'était en primaire, et pour ceux qui ont une idée de ce que c'était, c'était des ordinateurs, c'était, on le mettait sur la télévision, on branchait l'ordinateur sur la télévision, et c'était des cassettes audio sur lesquelles on programmait, on écrivait les programmes en faisant un enregistrement, on appuyait sur enregistrer, pour, donc, et puis après pour charger le programme. On mettait la cassette audio au-dessus, on appuyait sur play et ça chargeait le programme dans la mémoire et c'est comme ça qu'on faisait.
J'ai donc, jamais c'était... entendu parler voilà, de ça. Donc,
je sais bien. Donc, c'était vraiment
mais comment, tes parents étaient dans le domaine de l'informatique
pas du tout,
ou non?
Pas du tout, mais mon père a toujours été intéressé par...
les nouvelles technologies, des choses comme ça, ouais.
Et puis il s'est dit que l'ordinateur, il avait des ordinateurs professionnels.
Ouais.
Et du coup, on a acheté un pour la maison, quoi.
C'est génial. Et donc, tu as appris...
Et donc, moi, j'ai appris à coder. J'ai appris à coder à cette époque-là.
Là, tu... ouais. Précurseur, là-dessus. Quoi. Vraiment, le début, quoi.
Oui, bon, enfin, j'ai l'âge aussi qui fait que... Et à Dauphine, j'ai eu la chance de découvrir Internet en 94-95. Ouais. Donc, ça, c'était vraiment le tout début aussi, quand ça sortait justement du réseau universitaire et que ça devenait un peu un réseau qui est aujourd'hui. Et donc, comme je savais coder, moi, ça m'a tout de suite attiré ce l'Internet, comme on disait à l'époque. Je me souviens d'anecdotes où il y avait une salle dans l'université où il y avait un accès. Enfin, il y avait deux salles. Il y avait une salle qui était plus ou moins pas vraiment libre accès, machin, etc. Il fallait avoir la clé. Enfin, bref. Et moi, je me souviens que j'allais pomper plein de devoirs sur Internet, en fait, déjà. C'est-à-dire qu'on avait des questions, des exposés à faire.
Sauf qu'ils n'avaient pas encore la vérification.
J'allais pianoter. Non, mais même les élèves ne savaient pas ce que c'était. C'est-à-dire que moi, je me souviens d'une réflexion d'un copain à l'époque qui me dit mais Internet, ça te sert à quoi?
Oh, si tu savais. Tu es toujours ami avec lui.
C'est complètement dingue. Tu te rends pas compte, mais c'est complètement dingue.
Parce que ça va
savoir
être, quoi, parce que
mais
clair.
Le savoir auquel tu as accès, etc. Moi, je suis. Enfin, on est vraiment à une époque où.
Dans l'imaginaire, où, on ne disait pas que ça pouvait.
C'est des personnes qui disent, mais ça sert à quoi ce truc-là, quoi.
C'est clair.
Voilà. Et.
Même je pense qu'on n'en a pas encore toute la mesure, parce que moi, ça m'arrive encore quand je suis sur Internet et que je fais des recherches de me dire « Ah bon, on peut trouver ça sur... » Alors que je suis née avec l'Internet et j'ai toujours utilisé ça, mais parfois, même moi, je suis émerveillée sur tout ce qu'on peut trouver sur Internet et tout. Alors, ce à quoi on peut avoir accès.
Ouais, ce qu'on peut trouver, avoir accès, mais là, c'était... Plus que ça, c'est-à-dire, ça te sert à quoi? À quoi ça sert ce truc? C'est pas quelle est la profondeur
l'étendue,
du puits, la
c'est
profondeur
à quoi
du
ça
puits,
sert c'est, juste basique.
C'est
quoi.
Basiquement, c'est quoi ce truc, quoi? À quoi ça te sert?
Ok.
Et donc, moi, j'ai commencé à coder aussi en HTML pour monter mon petit site web sur lequel j'avais mon CV, de trois conneries, machin. Et puis, donc, on est en 99-2000, ça, c'est la bulle Internet. Et donc, c'était assez facile de rentrer dans le secteur sans avoir de connaissances particulières. Et les connaissances que moi, j'avais, j'en avais déjà, je pense, plus que les 95%, 99% qui bossaient.
T'as qu'à taper à la porte et puis...
Et donc, j'ai bossé pour une agence web.
Machination.
Machination qui n'existe plus.
Chargé de projet web.
Ouais, exactement. Et je m'occupais de créer, de gérer des sites internet pour des marques.
Ah ok, d'accord. Tu étais dev, quoi, développeur...
Non, je n'étais pas dev, je ne faisais pas du dev, je faisais de la gestion de projet. Donc,
d'accord.
Donc, je faisais l'interface entre le client et
le
nos
dev
équipes en
qui
interne.
Qui avait besoin de... D'accord. Ouais. Et ça, tu fais ça combien, dans combien de temps?
Et ça, je dois faire ça 2-3 ans.
Ouais.
3 ans. 2-3 ans.
Ça te plaît ?
Ouais, mais j'en vois. Enfin, j'en vois un peu le bout dans le sens où. Dans l'agence, on a commencé, c'était une petite agence, après, on a fusionné avec une autre. Il y a eu besoin à un moment de restructurer l'agence parce que ça allait pas si bien que ça. Et donc, je profite d'un plan pour partir. Et je pars voyager, du coup. Je pars voyager en...
Le grand tour, le grand voyage.
Pas grand, non, mais je pars en Nouvelle-Zélande, faire du vélo en Nouvelle-Zélande.
OK.
Mais parce que je vais là-bas, parce que c'est toujours un pays qui m'avait un peu attiré.
Ouais.
Et puis, en fait, là-bas, il y a une course de voile qui s'appelle la Coupe de l'América,
ouais,
qui est là-bas. Et donc quand je me dis tiens je vais prendre un peu de temps off, je me dis ah bah attends c'est génial, il y a la coupe là-bas, c'est parfait, je vais là-bas, hein. Et puis de fil en aiguille je rencontre des personnes là-bas qui sont proches de l'organisation.
Tu passes combien de temps dans ton grand voyage?
Là je passe 6 mois.
Ah oui, quand même,
7 mois, ouais.
Parce que j'ai lu que tu disais Nouvelle-Zélande, Australie et Inde.
Ouais, non, mais Nouvelle-Zélande, j'ai passé bah, 4
la
mois,
majeure partie,
4 mois
d'accord. Ah oui, d'accord, ouais, et puis le reste, tu t'es un petit peu baladé comme ça.
Je suis allé voir des copains.
C'est quand même un bon petit voyage, 6 mois, c'est bien, c'est un petit peu de temps off, quoi.
Et puis,
je rencontre ces
personnes
d'Alingui, ouais,
et qui gagnent la coupe. Et
ah oui.
Et donc, derrière, c'est la première fois que la coupe est réorganisée en Europe. Et donc, moi, je commence à bosser pour eux, pour les Suisses, en Suisse. Et puis après, à Valence, 3 ans.
Valencia, en Espagne.
Ouais, en Espagne.
Et là,
je suis responsable, du coup, du site americascup.com.
Ouais.
Et
ah oui.
Ça, c'est assez génial parce que c'est en Espagne. Moi, je ne parlais pas espagnol. Maintenant, je parle espagnol.
Ça t'a jamais dérangé de se déplacer, tout ça, de vivre à l'étranger? Non,
non.
Plutôt
ce que j'aime faire.
Ouais. Ouais.
Et là, c'était assez génial aussi parce qu'on commence à une équipe. Moi, je dois rejoindre l'équipe. On doit être 10-15 à tout casser, principalement que Suisse et Français.
Ouais.
Et on finit à 350 avec 25 nationalités.
Ah oui.
Vraiment un truc vraiment chouette, une belle expérience.
Ouais. Et donc, tu restes
Je reste 3 ans.
3 ans,
3 ans et demi. Ouais, 3 ans.
Ouais, donc c'est une coupe tous les ans, l'America Cup ?
C'est le gagnant qui décide, mais c'est, en gros, c'est tous les 4 ans.
C'est le gagnant qui décide ?
Oui.
Ah ouais, du timing de quand ça va. Ah
de
ouais.
Tout, ouais.
Et vous êtes là, en fait, l'équipe est là pour chapeauter ce que le gagnant va décider.
Non, mais c'est le gagnant. En fait, l'organisation, il y a une organisation à chaque fois qui change.
Différente,
ouais.
D'accord. Ah oui.
C'est le gagnant.
Ah ouais, donc tu montes
tout.
Toute une équipe de 300
ouais.
personnes et
ouais.
puis 4 ans plus tard, c'est que des.
C'est
bon, ils peuvent reprendre
oui,
des
oui,
gens,
oui,
mais c'est des personnes totalement différentes
ouais.
dans un autre pays
ouais.
peut-être
oui.
qui se remontent
oui.
pour. Ah ok, je ne sais, j'ignorais ça. D'accord. Ah oui, c'est spécial quand même.
Oui, c'est spécial. C'est un événement spécial.
Dans
le côté sport.
Ok, donc au bout de 3 ans, par définition, forcément, c'est pas un job qui pouvait être
non.
de façon pérenne, que tu pouvais faire de façon
non,
pérenne.
Non, mais après, j'aurais pu continuer, mais il se trouve que Anne, ma compagne,
qui est journaliste,
depuis ce temps-là, du coup, parce que c'était
ouais.
juste avant de partir, donc c'était en 2004.
Mm-hmm.
Je reste à Paris, donc on fait des allers-retours,
ouais.
Voilà, et donc on se dit bon bah c'est moi qui décide de rentrer.
Ouais. Puis tu retournes dans le web.
Et je retourne dans le web, je fais un petit passage dans le web parce qu'on m'avait appelé pour refaire un site de sport, voilà. Donc je fais la mission là pendant 6 mois et en même temps je travaille donc sur le projet Recyclivre. Et en fait le projet Recyclivre, ça vient de plusieurs inspirations, mais
ouais.
Une qui est à Paris, on habite dans un appartement, on cherche voilà, à donner des livres, j'y arrive pas, c'est compliqué et tout.
Dès le départ, tu te dis c'est ça que je vais créer, c'est ça qui va être mon entreprise? Ou non, pas du tout, ça vient juste d'un besoin
non,
à l'instant T.
Il y a ça, et puis quand j'étais à Valence, là, j'avais acheté des bouquins sur internet.
Ouais.
Il se trouve que j'ai acheté des bouquins chez un vendeur tiers sur un marketplace et qui me dit merci d'avoir acheté chez nous, blablabla, mais vous ne savez peut-être pas, mais votre achat permet de financer des associations contre l'illettrisme.
Okay.
Du coup, je me suis dit, c'est pas
cool
leur truc,
c'est cool, ça, ouais.
etc. Après, c'est les États-Unis, c'est, bon, ouais, c'est ouais. pas du tout les mêmes, mêmes rapports à la distance, enfin, à plein de choses. Voilà. Et puis en France, voilà, il n'y a pas de trouver de solution facile pour pouvoir les
débarrasser,
donner,
en fait,
débarrasser
de tes livres.
Les donner. Alors, on peut aller dans des enseignes, voilà, mais on va prendre ses 100 bouquins sur son dos et puis on va récupérer 3 francs 6 sous.
Ah, bonjour Gilbert Jeune, voilà. C'est un. Revendre les livres de Cagne et d'Hippocagne, voilà. 370 quoi, parce que c'est un par jour. On les a achetés, mais 500 €. Ouais. Allez, 15 €, ben, je repars avec.
Donc, il y a ça et donc voilà, et donc moi je commence
à regarder ce qui peut être fait quoi.
Je commence à travailler sur l'idée. Mm-hmm. Et puis je monte officiellement en octobre 2008
ouais.
Recyclivre. Donc et en mettant dès le début voilà tout ce qui nous anime aujourd'hui, qui continue de nous animer aujourd'hui, à savoir les 3 piliers, c'est réutilisation de biens déjà produits, camionnette électrique, tout un côté développement durable qui aujourd'hui est très commun, mais qui a 13 ans n'était pas forcément très commun. Je pense qu'on a été un des précurseurs d'entreprises privées à se déplacer en camionnette électrique à Paris. Tout simplement, on n'en voyait pas beaucoup, et au-delà de ça, c'est que la mairie de Paris avait commencé à mettre des bornes pour l'électrique, ouais. Mais c'était pour... À l'époque, il y avait un modèle ou deux modèles de voitures, mais voitures individuelles.
Ouais.
Et nous, on ne pouvait pas se brancher sur les
D'accord.
bornes qu'ils avaient mises. Quand on avait un camion utilitaire, et on ne okay. pouvait pas se brancher sur les prises. Donc, on devait... Voilà. ça, c'est le premier pilier. Deuxième pilier, c'est la solidarité où on ouais. travaille. Depuis 13 ans où on essaie de travailler avec un maximum d'entreprises qui partagent nos valeurs, mm-hmm. donc des entreprises qui sont dans le milieu de l'insertion et du handicap. On essaie de privilégier ces entreprises-là, on en parlera sûrement un peu plus après.
Ouais.
On a reversé un peu plus de 2,5 millions d'euros depuis la création à des associations qui combattent l'illettrisme ou pour la préservation de la planète. Et le troisième pilier, qui pour moi est indispensable, c'est économique, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pérenniser tout ce qu'on fait et continuer à se développer qu'à partir du moment où on gagne de l'argent. Donc, Recycler n'a pratiquement jamais eu... je dis pratiquement parce que on a à peu près, je crois qu'on doit avoir réalisé depuis le début, à peu près 50 millions de chiffres d'affaires. Et on a dû avoir une subvention de 30 000 euros. Donc, je dis, voilà, pratiquement.
pratiquement pas de subvention.
Voilà, et parce que je pense que ça revient aussi sur les ressorts de jeunesse, de liberté et de ne pas être dépendant. Donc,
ouais.
Pour être indépendant, il faut gagner de l'argent, quoi. Donc, voilà. Donc, c'est les trois choses qui nous animent.
Qui t'animent, ouais.
Et qui continuent à nous animer aujourd'hui. Encore plus aujourd'hui. Parce que nous on a envie de montrer clairement qu'on peut gagner de l'argent,
faire de l'argent en étant
responsable, et qu'aujourd'hui il n'y a pas besoin de choisir et qu'on peut faire les deux et que c'est tout à fait faisable quoi. Donc ça, on est très content que les mentalités évoluent et que on se pose peut-être moins la question aujourd'hui de ah mais attends, c'est une entreprise qui fait attention à l'homme et à la planète. Bon, ok, les bisounours, machin,
ils sont mignons.
Ça n'a pas gagné d'argent, c'est de la sauce associative c'est dans ça. Son coin, machin. Et on est très content que le regard commence à changer et de se dire, bah, en fait, moi, je pense sincèrement que demain, on ne pourra plus faire sans.
Ouais.
Donc,
j'essaie de donner l'exemple, notamment dans des associations. Je connaissais de noms, mais je me suis plus intéressée quand j'ai travaillé sur Recyclolive. C'est 1% pour la planète. Mm-hmm. Je ne le dirai pas en anglais, mais c'est un regroupement d'entreprises, d'associations. Oui, c'est ça, entreprises, associations.
En fait, non, c'est un mouvement. Donc, c'est un mouvement d'entreprises, puisque c'est uniquement des entreprises qui donnent 1% de leur chiffre d'affaires. Donc, c'est la subtilité est là, c'est pas le bénéfice, mais c'est sur le chiffre d'affaires. Donc, clairement, l'an dernier, nous, on a réalisé 10 millions de chiffres d'affaires, on a reversé 100 000 euros. à donc des associations, des associations qui sont labellisées 1% pour la planète.
Ok, et donc c'est, ça concerne que l'environnement.
Oui.
Après,
l'environnement est assez
voilà, large.
voilà, c'est, je pense qu'il ne faut pas opposer les deux, surtout ouais. pas. Mais voilà, donc on est un groupe de, enfin, je ne sais plus combien on est, mais plusieurs centaines d'entreprises ouais. en France. Et on est le deuxième, en France, on est le deuxième pays contributeur sûrement, parce qu'en termes de nombre de membres...
D'entreprises membres voilà, de ce mouvement.
Après les États-Unis.
D'accord.
C'est un mouvement qui a été fondé aux États-Unis par Chouinard, qui était le fondateur de Patagonia.
Donc si on revient à la genèse donc, de Recycle Livre... si on revient à la genèse de, Recycle Livre, on est en 2008, tu cherches à te débarrasser de bouquins, de livres que tu as dans ta cave, j'ai lu dans ton appartement du 18e arrondissement de Paris... Tout de suite, tu te dis, je vais coder, je vais écrire un programme pour mettre en ligne, pour faire une collecte. Comment ça se met en place, vraiment, les premiers jours jusqu'à la mise en vente du premier livre? Alors, j'ai lu que c'était le premier livre, c'était Les Découvreurs de Daniel Bourstein, qui a été vendu à 4h du matin, un samedi matin.
Ouais. En fait, je sais que... En fait, là où, où j'arrive avec une approche différenciante...
Ouais.
C'est qu'à l'époque, en 2008, les livres d'occasion, c'est des libraires d'occasion qui les vendent sur Internet. Et moi, j'arrive avec une autre approche qui est plutôt l'approche Internet, qui est plutôt l'approche du moyen plutôt que du produit. Et donc, j'arrive en disant, ben, je sais qu'il faut qu'on en vende beaucoup pour gagner de l'argent, parce que les marges sont... faible. Un moyen d'en vendre beaucoup, c'est d'automatiser un maximum de choses. Ouais. Et un moyen de limiter le temps de collecte, référencement du livre, revente, c'est d'automatiser un maximum de choses. Donc moi, dès le début, c'est...
Il faut des outils pour t'aider pour aller vite.
Tech,
quoi.
C'est ça. C'est le côté tech que je vois tout de suite. Et dire, c'est la solution, c'est la tech. C'est pas autre chose. Donc, moi, je code. Moi, j'ai codé les algorithmes de saisie des livres et puis de mise en vente et de remise à jour de nos prix. Les 4 premières années de Recycler ou les 5 premières années, je ne sais plus à peu près. Mais donc oui, je crée des programmes informatiques pour
automatiser tout ça et que ce soit
quand je scanne le code barre, que ça aille me chercher les bonnes informations du titre, de l'auteur, etc., que ça me récupère le prix, que ça me sorte une étiquette pour que je colle tout de suite l'étiquette, un code barre sur le livre, parce que je savais qu'il allait falloir inventorier les trucs, machin. Après, je mets les livres dans un carton sur lequel je code aussi un code barre. Et puis ensuite, une fois que ces livres sont référencés, je les mets en vente donc sur Amazon. Sur Amazon avec des fichiers, des échanges de fichiers, etc. Je code les trucs tout bêtes, quand les fichiers, je récupère les fichiers des commandes, ça me faire mes étiquettes pour faire l'impression des trucs,
pour te simplifier la vie au maximum, pour pas perdre de temps.
Simplifier la vie au maximum. Alors après, je commence à les stocker dans ma cave, et c'est forcément la commande, c'est forcément le dernier carton, avec le livre qui est au dernier carton.
Bien sûr, donc il faut aller plonger dans le...
Tout enlever, remettre, etc.
Tu te souviens du moment où il y a eu ce passage de moments où non, c'est plus possible la cave, il faut trouver. Comment tu fais pour trouver un prestataire?
Ça va assez vite en fait, parce que la cave était pas très grande.
On a très vite dépassé les possibilités.
La cave est pas très grande, et en fait, avec Anne, ma compagne, on était tous les deux en train de travailler à la maison. Elle quitte la rédaction dans laquelle elle travaillait pour se mettre à son compte. Donc les livres qui étaient à la cave est pleine, ils rentrent dans la maison, et puis on travaille tous les deux dans un appartement
qui était submergé, noyé, mais qui
est quand même relativement
c'est une surface parisienne,
voilà. Et donc se voir toute la journée quand on est dans des périodes un peu
chargé,
challenging, ouais. Sur se mettre à son compte, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Donc on se dit, pour notre santé, il faut qu'on, faut aussi que je trouve un endroit assez rapidement.
Histoire de se libérer l'esprit, voilà. L'espace.
Et
comment tu trouves ça?
On trouve un endroit, où c'est des copains, voilà, un week-end, et puis un copain de copain qui a une surface là juste à côté, rue de Trévise, ouais. Qui sous-loue à des personnes, à deux photographes, mais il y a une petite pièce de 12 mètres carrés où il n'y a personne, et nous on est trois dans ce truc là, il y avait deux graphistes et moi, et puis on se dit bah, on le prend pour nous, quoi.
On y va.
Et puis après, donc je recommence à entasser là, ça devient vite.
Ouais, parce que 12 mètres carrés, en fait.
Ouais, non, ça va vite.
Ça va très vite.
Et donc là, je cherche un prestataire. Et là, un prestataire, bah, ça, c'est toujours la même histoire. Hein. On n'a pas de...
J'ai l'impression...
On commence.
Je te coupe là, 30 secondes, mais j'ai l'impression qu'en fait, tout... Créer ta société, ça s'est fait plutôt logique et tranquille. Enfin, tu vois, ça s'est fait... Oh ben on y va, ça c'est smooth un peu, c'est...
Bah en fait, moi j'ai cette capacité à oublier à oublier les mauvais moments.
T'inquiète, il y a une question qui arrive après dans la continuité où j'ai dit « Alors, est-ce que t'as galéré ?»
Ouais, et j'ai beaucoup de mal à répondre à cette question-là, ouais. Parce qu'en fait, je ne me souviens. J'ai mon esprit bloque, en fait, ce truc-là.
Et pro et
perso aussi. Moi, je bloque ces trucs. Esprit bloque ces choses-là. Donc... mais les personnes qui côtoient, notamment Anne m'a rappelé il y a quelques jours, quelques semaines, je sais plus, elle dit non mais tu te souviens pas, mais il y a des moments où tu rentrais, tu pleurais à la maison tellement c'était dur, quoi, tu vois. Et moi j'ai complètement oublié ça.
Et elle a toujours été, tu sais, quand tu lui as parlé de ton idée au début, parce que je pense qu'il faut quand même avoir quelqu'un à ses côtés quand on monte sa boîte.
Ça, c'est sur la dernière question. Il faut.
La douleur.
Non, mais évidemment, c'est très dur. Évidemment, c'est plein de remises en question. Ouais. Évidemment, c'est plein de questions. Et oui, si vous n'êtes pas soutenu dans la cellule familiale, j'ai envie de dire, c'est quasiment impossible.
Tu peux jeter l'éponge rapidement.
C'est quasiment impossible, d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire que soit tu vas sur ta boîte et puis ça se passe mal familialement, soit t'arrêtes et puis voilà. Mais, donc moi, j'ai pas trop de souvenirs, mais tu vois, et donc comment je trouve ces
prestataires ? Le prestataire, ouais.
Ben, tu commences, t'as trois bouquins à vendre, non mais je vous promets, oui d'accord, et puis donc t'en as qui te répondent pas, évidemment la majorité te répondent pas, t'en as quelques-uns qui te répondent, qui te font des prix américains pour te dire, j'ai pas envie de t'avoir, mais en même temps si t'es prêt à payer ce prix débile, bon pourquoi pas, t'en as qui
c'est une insulte à l'intelligence, c'est cela.
Ouais, t'en as qui sont... T'en as un, je me souviens, qui m'avait envoyé son Excel, et en fait, il y avait sur un deuxième onglet, il y avait tous ses calculs de marge, et puis il y avait un x3 sur le truc. Il dit, ah ouais, d'accord, c'est intéressant.
Charmant.
Il avait oublié de l'enlever.
C'est comme ça que tu fonctionnes.
Ouais, il avait oublié de l'enlever. Enfin, x3 par rapport à ce qu'il proposait à d'autres.
Ouais.
Et puis je tombe sur Ares avec qui on travaille depuis 13 ans.
C'est la même chose que Login.
Oui, Login, c'est ils ont fait une joint venture.
D'accord.
Une joint venture entre Ares et un logisticien américain qui s'appelle XPO.
Ok.
En fait, ça s'appelle Login, c'est pour logistique insertion.
D'accord.
Donc c'est le même groupe, c'est Ares. Voilà.
Ok.
Et puis là, c'est une rencontre, on se fait confiance mutuellement parce que moi, ils me font confiance parce que j'arrive avec mes 40 cartons en disant « mais je vous promets, le mois prochain, il y a ça,
il y en aura peut-être plus, ouais. Hein. »
Et eux, je leur fais confiance aussi parce que c'est dans un entrepôt qui était à 30 km à l'est de Paris,
okay.
Là, qui est un truc un peu sordide quand même, vraiment pas du tout aux normes, etc. Ils savaient... faire de la palette, mais c'était un peu le plus petit truc qui manipulait. Et moi, je leur demandais d'aller manipuler des bouquins unitaires avec des références unitaires et faire du e-commerce. Donc ça, ils ne savaient pas du tout faire.
Okay. Donc eux, en fait, leur boulot... Donc ARES, c'est l'Association pour la réinsertion économique... Et économique et sociale. Et donc, eux, leur boulot, c'est... Ils reçoivent les livres dans leur entrepôt et ils les mettent, ils les envoient quand il y a une livraison. Exactement. Ils font la gestion des stocks et l'envoi des colis pour les gens qui commandent.
C'est la réception, la mise en stock, donc la mise en étagère. Et puis après, quand il y a une commande, le prélèvement et la préparation de la commande.
Et tu as tes petites camionnettes électriques qui vont chercher dans Paris, on verra dans d'autres villes après, qui vont chercher dans Paris chez les particuliers ou les professionnels des livres dont ils ont envie de se débarrasser. Ouais. Et ça les amène là-bas et eux gèrent la deuxième partie de ça. Ok, donc tu arrives dans cet entrepôt.
Et donc ils me font confiance et moi je leur fais confiance aussi parce qu'ils font pas du tout ça. Et donc c'est une belle histoire qui commence à s'écrire et c'est une histoire qui continue à s'écrire depuis 13 ans. On a déménagé, je crois, 4 fois ou 5 fois déjà d'entrepôt.
Ah oui.
Depuis. Et nous, c'est évidemment une dimension hyper importante du projet parce que. Donc c'est une association qui insertion et logins, c'est sur la thématique de handicap aussi.
D'accord,
donc c'est des personnes qui ont été écartées du marché de l'emploi pour X ou Y raisons, pour maladie, pour des addictions, pour plein de choses, malheureusement, ou des accidents de la vie, simplement. Voilà. Et qui sont
en grande
chômage, grande exclusion vis-à-vis de l'emploi. Ouais. Et en général, quand on est en grande exclusion vis-à-vis de l'emploi, par rapport à la vie en général, c'est aussi le cas. Et donc, leur job, eux, c'est de leur offrir un SAS, en fait, pour pouvoir reprendre confiance en eux, se requalifier et demain en sortir pour avoir une activité dans une entreprise tout à fait classique. Donc, c'est vraiment ça, c'est vraiment un SAS. Pour les aider à remettre un pied à l'étrier et reprendre confiance en eux et repartir. L'intérêt pour eux d'avoir aussi une structure comme Recyclive, c'est que c'est des métiers qui sont qualifiants aujourd'hui sur la préparation de commandes, avec l'explosion du e-commerce. L'objectif, ce n'est pas du tout de garder ces personnes-là. L'objectif, c'est des contrats de toute façon de 2 ans.
Donc, d'accord, c'est de les faire évoluer jusqu'à ce qu'ils puissent intégrer une autre entreprise dans ces domaines de la logistique et tout ça.
Exactement. Voilà. Et chez Logins, il y a une dimension supplémentaire qui est une dimension handicap.
Ouais.
Où il y a une grande majorité des personnes qui travaillent là-bas qui sont porteuses de handicap.
D'accord.
Alors, pas d'handicap psychique, mais moteur. Et je crois que la statistique, c'est 80%, je crois, des handicaps ne se voient pas. Donc, c'est des personnes qui sont comme vous ne pouvez pas imaginer qu'elles ont un handicap, mais elles ne peuvent pas rester, par exemple, assises
longtemps ou debout
trop longtemps ou se baisser, etc. Et donc, on adapte aussi
la façon de travailler au handicap de chacun.
Donc,
c'est bien parce que ça apprend que c'est possible.
Exactement.
Là, parce qu'il y a beaucoup de gens...
Et nous, c'est un vrai... c'est un vrai partenariat, c'est un vrai aussi levier en interne de fierté pour le travail qu'on fait aujourd'hui, ça c'est effectivement on récupère un salaire à la fin du mois, mais aussi ça permet aussi à d'autres personnes et puis il y a plein de vraiment de chouettes histoires de personnes qui ont commencé à travailler sur l'activité et qui l'activité, mais leur fait reprendre confiance en elles et le fait de leur redonner des responsabilités. Et d'un seul coup, c'est une personne qui, 6 mois avant, pensait que...
Une personne jeune,
très jeune, moi j'ai rencontré qui avait 20 ans et qui pensait que l'avenir était fini, qu'il n'y avait rien de ça. Et juste le fait de leur refaire confiance et de leur remettre dans un univers de travail, etc. Et 6 mois après, c'est plus du tout la même personne qui est montée en compétences et à qui on donnait beaucoup plus de responsabilités.
C'est ça.
Et qui, du coup, revoit la personne 6 mois après, qui sourit et qui dit « Mais ouais, génial, la vie est belle, quoi. »
J'ai envie de faire plein de choses et d'avoir d'autres challenges.
Donc voilà, ça c'est vraiment chouette. Et donc, on est...
En commandant chez Recycle Livre, on fait un geste pour l'environnement et un geste pour l'humain.
Exactement. Okay. Et après, c'est pas pour ça qu'on n'a pas eu des moments de tension. Il y a des moments de tension qui étaient, un moment de tension qui était très difficile il y a quelques années, mais on savait aussi que l'intérêt, il y avait un intérêt général à ce qu'on arrive à trouver une solution à nos différends.
Tu veux dire plus pourquoi vous étiez en tension ou
Non, c'est une renégociation de contrat. C'est une renégociation de contrat sur des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord.
D'accord, oui.
Et
mais il faut quand même que ça marche. Parce
en revanche,
que c'est,
à un moment, on s'est dit, bon, arrêtons, parce qu'il faut vraiment qu'on trouve une solution en sortant par
le haut. Il y a un intérêt supérieur.
Parce qu'en fait, s'il n'y en a pas un qui peut sortir de cette négociation en n'étant pas bien. Parce que, en fait... vous nous faites payer trop cher, en fait, ça, c'est une difficulté pour l'entreprise et donc sur la pérennité. Et donc, en fait, c'est quand même 35 personnes chez vous. Donc, en fait, si.
Ah oui, c'est 35 personnes qui sont dédiées à Recycle Livre. Ouais, d'accord.
Chez RS, c'est 35 équivalents temps plein. Enfin, c'est plus de personnes. Donc, c'est 35 équivalents.
Équivalents temps plein, d'accord. Ouais, donc il peut y en avoir 70.
Et de l'autre côté, nous, on n'a évidemment pas intérêt à ce que vous ne trouviez pas votre rentabilité économique, parce que nous, si vous capotez, en fait, nous, on ne peut plus envoyer nos livres.
On ne peut rien faire.
Donc, voilà. Et le fait d'avoir aussi cette sensibilité commune et ce projet commun qui nous dépasse, qui est au-dessus de nous, fait que, on arrive beaucoup plus facilement à trouver des
terrains d'entente,
des compromis. Ouais, des compromis. Et moi, c'est ce que je dis aussi à plein de personnes qui me disent mais travailler avec des entreprises d'insertion, ça coûte moins cher. Je leur dis non, ça coûte pas moins cher, c'est le prix du marché, ça coûte pas moins cher. Et ils me disent c'est plus compliqué. Je dis oui, parfois ça peut être un peu plus compliqué, mais en fait, si vous sélectionnez des fournisseurs. Et nous, on n'appelle pas, d'ailleurs, je dis fournisseurs, mais nous, c'est des partenaires, plus que des fournisseurs. Enfin, en l'occurrence, là, ARES est vraiment un partenaire. Après, si on parle, quand j'essaie de parler de la même langue que les gens veulent parler, donc je parle de fournisseurs pour qu'ils comprennent mieux de quoi on parle. Et donc, fournisseurs...
Prestataires.
Si vous trouvez des fournisseurs qui partagent vos valeurs, en fait, vous allez vous inscrire dans la durée.
Ouais.
Et en fait, aller chercher le prestataire le moins cher, machin, etc. Ça va pas être dans la durée. Et en fait, c'est du temps que vous allez perdre derrière, que vous voyez pas, qui est masqué. Mais ça va être du temps en négociation, ça va être du temps où vous allez être obligé de prendre des personnes en plus pour rédiger les trucs, machin. C'est du temps que vous voyez pas.
Et puis changer quand ça convient plus, donc c'est un truc sans fin, quoi, en fait.
Voilà, et vous apprenez pas, machin. Là, on est sur une. Enfin, voilà.
Partenariat depuis le début, carrément.
Ouais. Là, on est très content. On vient de changer nos emballages il y a quelques. Oui, un an maintenant.
Ouais.
On a envoyé avec des emballages en plastique, certes recyclables, mais en plastique quand même.
Ouais, c'est pas top.
Pas du plastique recyclé et recyclable, mais en fait, le plastique recyclé, recyclable, en fait, il n'y a que 5% qui est recyclé, en fait. Donc, on te dit qu'il est recyclable, mais en fait, il n'y a que 5% qui est recyclé.
Une partie.
Super. Et donc, on l'a changé, on a travaillé avec un fabricant du coup d'enveloppes, et on a réfléchi avec lui qu'est-ce qu'on pourrait trouver ensemble comme enveloppe qui pourrait convenir pour la résistance.
Au produit, la résistance, pour protéger.
Tests,
après,
etc.
C'est des livres de seconde main, donc on.
Ouais.
Mais bon, si ça peut arriver en
quand
bon état.
C'est quand même mieux. Et on a travaillé avec eux qui font de la. Du coup, on utilise du papier qui est biodégradable.
Du quoi ?
Papier biodégradable.
Du papier biodégradable.
De la colle sans adjuvant, etc. Et donc, on a poussé le truc. Ça nous coûte plus cher que le plastique, mais on pense que c'est des choses.
Sur la durée,
sur la
ça
durée qui,
voilà.
qui,
un impact un, positif.
Alors, c'est un impact beaucoup plus positif que le plastique, c'est sûr. Et puis après, le partenaire avec lequel on a trouvé, là, il est très content parce qu'en fait, ce qu'on a fait, c'est que en fait, sur nos emballages, on a mis une petite pub, un petit encart pour lui qui, du coup, s'est dit moi, si je fais ces enveloppes pour vous, en fait, je peux les vendre pour d'autres.
Oui.
Donc,
ça s'appelle comment
Ça s'appelle Pocheco.
Pocheco, d'accord.
Et donc lui, ça lui rapporte du business parce que
bien
en
sûr.
Fait,
les
nous,
gens
on
voient,
envoie, nous, les gens qui reçoivent nos bouquins, nous, on a envoyé 1 300 000 bouquins l'année dernière. Donc,
ça commence à faire.
Il y a quelques personnes
qui ont vu Pocheco.
et donc voilà, si on peut les aider et aller là-dessus. Donc voilà, avoir des partenaires qui partagent vos valeurs, mais en fait, ça vous permet de transcender pas mal de choses et d'avoir une stabilité et de traverser au mieux, moi, je trouve, les crises. Et on sait qu'aujourd'hui, les crises, elles sont de plus en plus rapprochées, de plus en plus avec des amplitudes de plus en plus élevées. Et c'est écrit et c'est documenté. Toutes les entreprises qui font attention à des partenaires avec lesquels ils travaillent, avec les personnes chez elles, des collaborateurs, etc., traversent beaucoup mieux les crises que les autres. Et comme les crises, il va y en avoir de plus en plus et de plus en plus fortes, ben, je pense que ce sera ces entreprises qui resteront.
En parlant de crise, le Covid, comment ça s'est passé pour Recycle Livre, toute cette période-là qu'on a vécue? Là, quand on enregistre, on est en septembre 2021. Ouais. Voilà. Pour les auditeurs qui nous écouteront dans 2 ans, 3 ans, ouais. Espérons qu'on en est sorti. Mais comment ça s'est passé pour Recycle Livre, toute cette période de...
Donc ça a été le premier confinement
strict.
Donc,
ouais.
Strict. Moi j'étais pas là, mais moi j'étais en voyage. Mais
ah oui.
J'étais parti en voyage un an. Je suis parti en voyage un an il y a 2 ans. Donc pendant l'année du Covid j'étais en voyage, mais donc, pour les équipes. Je suis parti en famille avec mes 3 enfants et ma femme. On est parti en bateau. On est parti faire un petit tour en bateau. De l'autre côté de l'Atlantique, Caraïbes et côte est des États-Unis.
T'as fait la transatlantique?
Non. On l'a acheté là-bas et puis on est remonté jusqu'à Boston, jusqu'à Newport. Quoi. Et donc je suis pas là. On avait mis en place pour mon départ toute une équipe. Enfin, on s'était réparti un petit peu mes responsabilités entre différentes personnes.
C'était facile de partir?
Moi, c'était une évidence. Après on m'avait anticipé puisqu'on avait commencé à travailler avec tout le monde un an avant le départ.
Ah oui, d'accord, c'était un projet ouais. En même temps, quand tu fais ce type de projet, tu pars des Caraïbes, tu remontes à Boston, ça se prépare un petit peu, je comprends, mais
pas tellement, mais en tout cas pour la boîte on avait... non, pour la boîte on avait préparé
ouais.
Les choses,
d'accord, donc ça met un an de préparation pour que tout le monde soit
fait difficilement, avec des pleurs, des heurts, etc. On n'a pas vécu une année très facile.
D'angoisse pour ton équipe, peut-être, que tu ne sois pas là ou...
Plein de choses. D'angoisse, non, mais de révélations de comportements qui sont assez particuliers. Quand il y a plus de, quand le chef s'en va,
c'est la fête.
C'est pas forcément la fête, mais c'est quand le chef s'en va, il y a des personnes qui se sont révélées pas sur leur meilleur jour et qui pensent avaient des problématiques non résolues avec l'autorité et qui fait que l'autorité s'en va et donc voilà. Donc ça a pas été très, ça a été dur, c'était très dur.
T'as tout coupé ou non?
Mais on n'était pas là. Mais moi j'ai tout coupé, ouais, de août à mars.
Ah oui, quand même, ouais.
En fait j'ai eu Marine qui est avec nous depuis 7 ans ou 8 ans, je me souviens plus, à qui j'avais donné confié mon mandat de gestion et qui avait manifesté l'envie pour elle de faire un point d'une heure tous les mois. Donc j'ai eu de août à mars, j'ai dû avoir 6 appels. Et moi je me suis complètement déconnecté, j'ai pas regardé un seul mail, j'ai pas regardé un seul chiffre sur l'activité. En même temps, quand on est en bateau, on a beaucoup de choses à faire.
Oui.
Donc, et avec 3
enfants. T'as ton permis.
Et avec 3 enfants aussi.
Oui. Donc, vous êtes plusieurs à avoir le permis bateau ou t'es le seul capitaine
non,
à
non,
bord
non, on était en voilier.
Ah oui, voilier, t'as pas besoin de permis, ouais.
Non, bah, on était juste ma femme et moi, quoi.
D'accord.
Et nos 3 enfants. Et donc le Covid, pour revenir au Covid...
Ouais. Quand t'es sur ton bateau.
Moi, je suis sur mon bateau, il m'appelle, et nous, on commence à avoir un peu... Alors, on est à Cuba à ce moment-là, donc on n'a pas beaucoup d'informations. Mais on commence à voir que tout commence à se tendre, et toutes les frontières autour de nous se ferment, en fait. Et puis là, j'ai Marine au téléphone, machin, qui me dit, bon, bah, écoute, voilà la situation. Bon, écoute, on a gardé tout le monde jusqu'à... On était fin mars. On a gardé tout le monde plein temps jusqu'à fin mars. On va voir ce qui se passe après. Et je lui dis, non, attends. Vous avez été sympa de garder tout le monde à plein temps jusqu'à fin mars. Mais là, vous mettez tout le monde au chômage partiel. Parce que c'est pas ce qui va se passer, quoi. Donc, nous, on n'a plus d'activité. On peut plus aller collecter chez les gens. L'entrepôt, comme c'est des personnes qui sont...
En plus, ouais.
Fragile.
C'est fragile, ouais, c'est ça.
Machin, on a coupé l'entrepôt, c'est arrêté. Donc là, on a zéro activité. Donc je lui dis, écoute, non, tout le monde au chômage partiel dès le 1er avril. Elle me dit, tu crois ? Je lui dis, non, je suis sûr. Et donc nous, on coupe tout. Sur l'entrepôt, bah, ça, c'est pas notre décision, mais c'était un fait avec nous. Mais en même temps, personne fragile.
Pas, oui, voilà, c'était.
Il n'y avait plus de moyens de transport.
Oui, oui. Voilà, quoi, donc, tu ne peux pas faire autrement, en fait.
Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse notre site internet ouvert. Et donc, en prévenant évidemment les clients qu'il
n'y
a pas
délais,
d'expédition, qu'il n'y a pas d'expédition, machin, mais qu'ils pouvaient toujours passer commande.
Ouais.
Et puis, c'est un moment où bah, les librairies sont fermées. C'est un moment où. On fait de l'Amazon bashing en disant c'est Amazon qui en profite et puis bah, tous les commerces fermés donc y a plus, on ne peut plus que commander en ligne quoi. Donc nous pendant ce premier confinement ça marche très bien sur notre site mais on ne peut pas délivrer on peut pas, nous notre problématique sur les livres d'occasion aussi c'est qu'on n'a pas de profondeur d'exemplaires sur un même exemplaire, on n'a pas 15 références.
Voilà, c'est ça, oui.
Je prends par exemple Harry Potter. Harry Potter, en fait, dès qu'on le met en stock, il est vendu dans l'heure d'après. Donc, et on n'en récupère pas suffisamment pour pouvoir répondre à la demande. Donc après, on reprend de manière étalée.
Progressive, ouais, une fois qu'on peut.
Étalée, et puis après, on fait un bon juillet, août, septembre, octobre, et puis là, nouveau confinement en novembre.
Et là, t'es revenu, oui, depuis.
Là, je suis revenu. Et là, nouveau confinement en novembre. Là, en revanche, les librairies sont ouvertes, mais on est à nouveau e-commerce avant Noël. On est dans la seconde main, les réflexions que tout le monde a eues, pas tout le monde malheureusement, mais beaucoup de personnes ont eues pendant le confinement, de dire comment est-ce que je consomme, est-ce que ces trucs j'en ai vraiment besoin, est-ce qu'il n'y a pas une alternative soit de seconde main, seconde main française avec un acteur français et qui fait les choses à peu près correctement, Donc nous, on est au bon endroit au bon moment.
Dans le spectre.
Et donc, on fait des mois de novembre à décembre complètement incroyables.
Ok. Ouais.
Donc nous, l'année dernière, oui,
ça a été compliqué pour le
premier
confinement.
Ça a été compliqué
opérationnel,
mais opérationnellement parlant, ça a été très compliqué aussi parce que, en fait, entre tout simplement, je crois le mois d'octobre et le mois de novembre, on fait plus 50% de croissance. Donc, il faut envoyer 50% de plus de bouquins et on tombe sur des trucs auxquels on n'a pas anticipé. C'est-à-dire que on se dit ah bah c'est pas grave, on va mettre plus de monde.
Ouais,
mais donc, plus de monde, tu peux pas les mettre plus au même moment dans l'entrepôt parce qu'il se.
Oui, il n'y a pas de place en fait.
Il n'y a pas de place. Donc tu fais deux shifts.
Ouais.
Mais en fait, un truc que tu n'as pas anticipé, c'est qu'en fait, les terminaux qu'ils utilisent, en fait, ils se déchargent pendant toute la journée. Et en fait, ils les chargent la nuit. En fait, là, quand la première équipe a fini, en fait, les terminaux, ils sont déchargés pour la deuxième équipe. qui a plus de batterie.
Oui,
c'est des trucs
cons
comme ça.
C'est des petits détails. Oui, c'est vrai.
C'est des trucs idiots comme ça, en fait.
Mince.
Okay, donc, c'est plein de petites choses
à repenser
qui font que,
pour pouvoir soutenir la cadence.
Sur plein de trucs et que tu n'as pas forcément anticipé. Donc, ça a été très challenging pour toutes les équipes.
Et là, c'est revenu.
Bah maintenant, oui, ça va mieux. Mais donc, c'est absorber des pics de croissance comme ça, c'est très compliqué. Mais après, c'est ça qui fait aussi le truc, le piment et le truc chouette du boulot, c'est que on a la chance d'être en croissance et on a la chance de... Ce que je dis à tout le monde, c'est qu'on a des problèmes de riches. Hein, donc, voilà, c'est cool de se poser ces questions-là. Quoi.
Ouais. Tu parlais de ton équipe, donc de Marine, qui a pris sa suite, la relève un petit peu quand tu es partie en famille. Ouais. Parlons de ton équipe. Donc, tu as mis... Recycle-Livre existait depuis... un an, à peu près un an, quand tu as recruté une première personne ?
Oui, c'est ça.
Comment ça s'est pris, la décision ? Toi, est-ce que c'était quelque chose, un poste ? J'aime bien poser cette question aux chefs d'entreprise que je rencontre. Est-ce que quand tu es devenu patron de ton entreprise, tu as découvert des métiers que tu ignorais, et notamment le recrutement et plein d'autres choses ? Et toi, comment ça s'est passé, ces premiers recrutements ? Quels sont les types de postes que tu as recrutés en premier ?
Alors, découvert des métiers que je ne connaissais pas, non, je ne pense pas, parce que... on a, enfin,
la paye.
Si des métiers, non, mais des métiers très spécifiques. Tu rencontres dans ton, dans ta vie d'entrepreneur, ouais, des personnes qui ont des métiers que tu n'imagines pas, mais dans ta vie d'entrepreneur, moi, comme j'avais une formation assez généraliste, éco et finance à Dauphine, bon, on voit quand même pas mal de choses là-dessus. Après, comment je recrute cette première personne? En fait, je fais une petite levée de fonds 6 mois après avoir commencé, au mois de juin 2009.
Tu fais comment, cette petite c'est auprès de proches ou c'est un truc?
Non, mais
plus
ça fait partie des conseils effectivement que je pourrais donner. C'est,
vas-y,
c'est,
je t'en prie.
C'est dire, c'est quand on commence, enfin quand on a une idée, c'est d'en parler le plus possible parce que c'est pas l'idée qui fait que
pour la confronter.
C'est pas l'idée pour t'aider à itérer, etc. C'est pas l'idée qui fait que ça marche. C'est l'exécution. Et puis quand il y a une idée, en fait, tu te rends compte qu'il y en a plein d'autres qui l'ont eu avant ou qui sont en train de l'avoir en même temps. Donc c'est l'exécution qui va faire que. Deux. Et donc ça, dans ce cadre-là, moi, quand j'ai lancé Recyclivre, en fait, j'ai repris mon carnet d'adresses et j'ai recontacté toutes les personnes que j'avais pas vues depuis des années.
Ok.
Parce que là, on est en 2008.
Pro ou amical ou tout
Bah, de la fac, en fait, principalement.
La fac, okay,
tu vois, principalement de la fac. Moi, je dois avoir mon diplôme en 96, je crois. Donc, c'est des personnes que j'ai pas vues depuis 10 ans, quoi, tu vois. Et en 10 ans, bah, t'évolues, tu vois.
Ah, bah oui, c'est
passé des choses. Donc, je reprends mon carnet d'adresse et puis je me dis, tiens, il était sympa ce gars, il a changé de numéro ou pas. Non, tiens, on se fait un déj. Et puis à l'occasion justement d'un déj comme ça, je rencontrais un gars qui lui aussi est en train de monter sa boîte au même moment, pas du tout dans le même secteur, mais qui me dit, écoute, j'ai vu un fond là, un petit fond, moi ça colle pas avec eux, mais toi, de ce que tu me racontes, ça pourrait être dans leur
dans leur
spectre.
Ouais, ok.
Du coup, c'est comme ça que je les rencontre et c'est comme ça que je fais une petite levée. À l'époque, j'ai 3 francs 6 sous de chiffre d'affaires.
D'accord, ouais. Et tu lèves combien?
Je lève un peu plus de 100 000 euros.
Ah oui, c'est bien, c'est,
oui, oui,
c'est pas
bon,
mal quand même.
C'est pas fou non plus, mais ça me permet de, ça me permet justement d'embaucher quelqu'un à la rentrée en septembre pour faire les tournées, parce que c'était toujours moi qui faisais les tournées.
Oui, tu faisais tout, d'accord.
Je faisais les tournées, référencer les bouquins, et puis c'est un poste un petit peu hybride sur plein de trucs à faire, et c'est tous les trucs sur lesquels moi je veux me délester, que ce soit sur le site, sur plein de choses, quoi.
Ouais. Et donc au début, donc, vous êtes sur Paris, et comment tu décides de t'étendre, comment ça se passe tout ça, ton équipe qui grossit et le nombre de villes aussi sur lesquelles tu fais des tournées et la présence de Recyclivre. Alors maintenant on est aussi sur l'Espagne, Madrid, Barcelone, j'ai lu aussi que tu visais peut-être l'Italie et l'Allemagne, et comment se passe tout ce... cette expansion?
De façon assez simple, il y a 2 personnes qui viennent me voir, je sais pas, je dirais 2-3 ans après avoir commencé, qui me disent, on a vu un reportage sur un concurrent, en l'occurrence un concurrent américain.
Ok.
Qui était passé en France, un reportage qui était passé en France, et elle m'a dit, on a recherché et tout, on s'est dit c'est intelligent son truc, et puis on a cherché, et puis on a vu que vous existiez, on s'est dit c'est peut-être pas la peine de réinventer la roue, allons le voir et tout. Moi à l'époque, j'ai pas d'argent pour embaucher ces personnes-là, c'était à Bordeaux, et donc on fait un contrat de licence de marque, et donc moi je leur licencie la marque, tous les outils, et je leur donne tous les outils pour collecter. Et
ça, c'était facile à trouver comme process à faire, entre la licence de marque ou tu te...
Non, mais je vais voir un avocat,
voilà comment il faut faire.
Ça, c'est un autre conseil aussi, n'hésitez pas à aller voir des avocats. un bon avocat, en fait, c'est pas un bon avocat, en fait, dans la vie d'entrepreneur, vous êtes avec un gros cabinet d'avocats et ils ont toutes les compétences en interne. Soit, en fait, vous avez un avocat par sujet.
Ok, ouais.
Nous, c'est plutôt notre cas.
D'accord.
Un spécialiste du sujet, qui est dans un... soit indépendant, soit contrat social, droit social, Et puis éventuellement, enfin là pour l'instant c'est tout ce qu'on a, après éventuellement
la marque aussi, parce que
ouais, protection, pff, ouais. On n'a pas trop de sujets,
pas trop de sujets,
de protection de marque, machin, quoi.
Okay. Donc oui, on était à Bordeaux avec ton...
Et donc, donc voilà, donc, et donc on fait un contrat où en fait la personne va collecter les livres. Et nous, on la rémunère un pourcentage en fonction du type de livre qu'elle récupère.
Ouais. Et qui t'envoie à l'entrepôt. Qui nous envoie à l'entrepôt. D'accord. Voilà. Et donc, ça commence avec Bordeaux.
Ouais. Et puis, en fait, ça reste avec Bordeaux pendant pas mal d'années.
Ok, ouais.
Et donc, je refais donc, levé de fonds en 2009. Et en 2013, je rachète la participation du fonds qui était chez nous.
Ah oui, parce que quand tu fais une levée de fonds, forcément tu donnes des petits pour les auditeurs,
ouais.
Tu donnes des petites parts de ton entreprise à aux personnes bien évidemment qui ont apporté de l'argent dans la besace, forcément.
Exactement. Et donc là je
redeviens indépendant.
Et donc là je rachète leur participation, donc je reviens à 100%.
C'était important
dans la
pour
boîte.
Toi ou c'était juste parce que tu
non mais il y avait l'opportunité de le faire, de revenir à 100%, et derrière je savais que je faisais rentrer un autre fonds juste
d'accord.
après, enfin plusieurs mois après, mais je savais que je pourrais le faire voilà. Et donc je fais rentrer un autre fonds qui est toujours chez nous, qui s'appelle Investir et Plus, avec qui ça se passe très bien depuis le début.
Ils ont un média en ligne en plus, non? Investir en ligne, je crois, non?
Investir Plus. Si, ils ont Spark News.
C'est ça, parce que je crois que j'ai lu des interviews de toi.
Ouais.
Je mettrai le lien en barre dans l'article qui te sera consacré sur le site internet.
Et donc là, je fais une levée pour ouvrir les autres villes, en fait.
D'accord.
Mais cette fois-ci, en propre.
D'accord, et tu as une liste de livres de.
Et j'ai,
de
en fait,
villes.
Nous, il faut qu'il y ait une densité suffisamment importante pour que ça soit rentable d'avoir une activité. Donc, en fait, les villes qui sont sur lesquelles il y a une densité suffisamment importante, c'est celles qu'on a couvertes aujourd'hui, moins Marseille. Mais
Marseille.
Sinon.
Si tu veux, on peut s'occuper de Saint-Etienne.
Ouais, la densité n'est pas forcément. Non, ouais. Donc c'est Lyon, Strasbourg, Lille, Nantes, Toulouse. Et en fait, comment ça se passe, c'est que on ouvre d'abord Lyon. On essaye de faire un maximum de conneries pendant 2 ans.
De conneries, c'est-à-dire
On essaye plein de choses pour savoir ce qui marche et ce qui marche pas.
Ok, ouais.
Plutôt que d'aller ouvrir toutes les autres dans la filée.
L'échantillon test.
Ouais,
Lyon.
Où est-ce que qu'est-ce qu'il faut trouver comme local?
Ouais.
Est-ce que c'est un local dans le centre-ville, pas dans le centre-ville? Comment est-ce qu'on travaille avec les associations locales? La relation tout simplement personnelle qu'on a entre... c'est la première fois qu'on a des collaborateurs qui ne sont pas physiquement ensemble au bureau. Donc la relation à distance, les embauches à distance, le machin. Enfin voilà, on teste un peu tous ces trucs-là. Et donc on fait ça pendant 2 ans. Et puis au bout de 2 ans, on se dit bon, c'est bon, je pense qu'on
ça roule.
Ça roule, disons, on sait là à peu près la feuille de route,
où est-ce qu'on peut,
qu'est-ce qu'il faut comme local, comment est-ce qu'on recrute, c'est quoi l'onboarding, etc. Et donc, on ouvre les 4 villes dans la même année. Quoi.
Ah oui,
donc,
d'accord. Ah oui, ça...
Là, on ouvre Lille, dans l'ordre, Lille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Okay.
Tout ça dans la même année.
Ils sont combien sur place à chaque fois?
Deux personnes,
ok, qui gèrent le...
Ouais. Après la Covid, enfin après pas mal de personnes qui travaillent à distance chez nous, et donc
maintenant,
on a des personnes qui sont pas, enfin qui sont par exemple là il y a une personne qui vient d'arriver qui est arrivée la semaine dernière pour s'occuper du SAV et puis de l'administratif chez nous. Donc c'est des fonctions entre guillemets support, mais elle est à Strasbourg.
Ok. Ouais.
Voilà.
Elle peut aller dire bonjour aux copains.
Voilà, mais ils sont ensemble à Strasbourg, du coup c'est sympa dans le bureau,
c'est
parce
cool,
que voilà. Donc.
T'es pas tout seul enfermé dans ta maison, surtout avec le Covid, ça c'est compliqué. Ouais.
Ouais. et donc voilà comment on ouvre.
Ouais.
Et puis après l'Espagne, la réflexion est qu'on a des gros concurrents en Allemagne et en Angleterre.
Ok.
Qui qui sont un peu sur le marché français, mais qui ne sont pas du tout sur le marché du sud de l'Europe, okay. Espagne et Italie. Et donc on se dit si...
Et Portugal, peut-être, je ne sais pas si c'est envisageable.
Ouais, éventuellement, après, il y a 10 millions d'habitants au Portugal avec des livres en portugais. C'est... Le marché n'est pas complètement énorme. Quoi,
donc... Le Brésil, après,
oui, mais
pour
du coup,
l'export.
Oui, mais là, on a des problématiques de coûts d'expédition,
d'expédition
qui, pour nous,
ouais.
qui, pour nous, on ne gagne pas beaucoup d'argent par livre. Donc, voilà. Donc, ça sera peut-être plutôt dans l'autre sens. On va peut-être ouvrir au Brésil et on enverra au Portugal. Et donc,
tu vois une opportunité,
donc on se dit il faut y aller avant que les autres y aillent, quoi, parce qu'il y a des marchés à prendre. Voilà. Et donc, moi, en ayant travaillé 3 ans en Espagne,
c'est vrai.
C'est évidemment plus naturel d'aller en Espagne, même si ma grand-mère, qui n'est plus de ce monde, mais était italienne, donc j'ai des racines italiennes assez proches et présentes chez moi. Mais donc c'est plus et donc on ouvre l'Espagne il y a 3 ans maintenant.
Et qu'est-ce qui change avec l'Espagne? Est-ce que c'est bon, c'est une autre législation, c'est plus compliqué,
c'est puissance 10 d'un changement de dans une autre ville.
Ah ouais,
ouais. Bah oui, c'est-à-dire que nous on arrive, je peux te donner un exemple, mais le marché est pas du tout mature, c'est-à-dire que nous on arrive là-bas. C'est même pas au niveau, le marché du livre d'occasion, c'est même pas au niveau de quand j'ai commencé en 2008 en France. C'est-à-dire que ce qui se passe là-bas, c'est que c'est des brocanteurs qui vont acheter les livres dans les associations en liquide. Donc tout se passe comme ça là-bas.
D'accord.
Et donc là, on arrive, on dit, et nous, notre modèle, c'est pas d'acheter les livres. Nous, notre modèle, quand on travaille avec des associations, c'est de leur dire, confiez-nous et nous, on reverse un pourcentage sur la vente de ces bouquins-là. Bon, en Espagne, c'est hors de question. Tu pars pas avec un bouquin si tu l'as pas acheté et tu me l'achètes en liquide. Donc, quand tu vois, quand tu essaies de
prêcher là.
Quand tu essaies, quand en France tu fais les choses correctement, tout ça, un des mots moi, que j'avais dans la boîte, c'est on ne prend pas de liquide. C'est-à-dire, je n'avais pas envie de m'embêter avec du liquide dans la boîte, des caisses et machin. On ne prend pas de liquide. Et chez nous, ça a été compliqué. Il y a des personnes qui ne comprenaient pas pourquoi est-ce qu'on vend parfois des lots de livres à effectivement des brocanteurs et du liquide. J'ai dit non, je ne veux pas de liquide. Ils se démerdent. Mais on a une machine à carte bleue, il a une carte bleue, il a un chèque, et machin, voilà. J'ai pas envie d'argent qui soit pas tracé.
Qui traîne.
Bah, c'est même pas d'argent qui traîne, c'est juste.
C'est un enfer.
Deux, faut quand même pas être complètement idiot. Si on te demande de payer en liquide, c'est que a priori, on doit se dire bah tiens, finalement, il y a 2-3 trucs que j'ai pas envie de payer.
Voilà.
On n'a pas forcément envie d'encourager ça.
Voilà.
Bon, mais en Espagne, c'est pas possible de faire autrement.
D'accord. Ah oui.
Ça, c'est un petit exemple, mais donc on arrive là, et donc ça marche comme ça pendant 6 mois, et puis à un moment, moi je dis à Javier qui est en Espagne, je dis bon, écoute, basta, maintenant on arrête. Il me dit mais non, tu te rends pas compte, ils vont plus vouloir de machin, etc. Je dis bah, vas-y, essaye déjà. Et bien, bah si, ils ont bien voulu. Ils ont trouvé l'appareil à carte bleue. Je dis ah, tiens, c'est marrant ça. Ah bah,
d'accord, ouais, voilà. Donc finalement, donc, à force de.
Ils ont un intérêt,
Bien sûr.
Mais c'est plein de trucs comme ça, c'est plein de choses comme ça, et puis c'est une nouvelle langue, c'est une nouvelle façon de travailler, c'est autre chose,
une autre législation, une boîte.
Après ça on passe par des avocats,
ouais.
Parce que c'est comme ça que ça se passe en Espagne, mais pour tout et rien, c'est un avocat. T'apprends.
Ouais.
Mais
et tu
persistes. Là, t'apprends, mais ça te coûte, ça te coûte pas mal d'argent quand même, la courbe d'apprentissage, elle te coûte pas mal d'argent par rapport à un apprentissage dans une autre ville.
Ouais.
En gros, nous, dans une autre ville, c'était, je crois que c'était 2 ans et demi pour commencer à gagner de l'argent.
D'accord, ouais.
Et après, pour entre guillemets rembourser tout l'invest qu'on a mis, c'était 3 ans et demi ou 4 ans.
D'accord, ok, ouais.
Là en Espagne, ça fait 3 ans qu'on y est, on ne gagne toujours pas d'argent.
D'accord.
Et on en perd beaucoup plus que d'ouverture une nouvelle ville.
Heureusement qu'il y a plein d'autres villes qui meurent.
Oui, oui, non, mais donc se lancer à l'international, c'est pas forcément simple.
Est-ce que tu as été soutenu? Je sais pas, tu as fait appel à Business France? Non. C'est trop proche l'Espagne pour faire appel à ces structures.
Et puis moi, on a la chance de gagner de l'argent, on a la chance de pouvoir l'investir comme on veut.
T'as les
monter les dossiers, machin. Après, c'est peut-être idiot, hein. Mais après, c'est la manière dont on le fait. Mais bon, là, on devrait commencer à gagner de l'argent le mois prochain.
D'accord, donc tu es à Madrid, Barcelone, c'est déjà.
Non, mais a priori, on va rester qu'à Madrid parce que la manière dans laquelle on va se développer en Espagne va pas être la même qu'en France. Là, en France, on a ouvert effectivement des villes parce qu'on avait un service. Bon, on a toujours un service de collecte gratuite à domicile. Mm-hmm. On a lancé il y a plusieurs mois maintenant une application de rachat.
Oui, c'est ça. Donc on peut vendre directement son livre par Internet.
Exactement, avec une application à télécharger sur le téléphone mobile. Et puis là,
scanne
le code barre.
Le code barre.
Et puis nous, on vous renvoie le prix auquel on le rachète.
D'accord.
Et puis il faut atteindre un minimum de 12 euros. Et puis là, vous pouvez prendre votre carton, mettre les livres dedans et aller le déposer dans un point relais à côté de chez vous. Et nous, à la réception, on le vérifie et on vous paye à la réception.
D'accord.
Et donc ça, c'est la manière dans laquelle on va se développer dans les prochains pays sur lesquels on va aller. Voilà. Donc on va pas ouvrir a priori d'autres villes
en Espagne et l'Italie et l'Allemagne.
Et l'Italie, on voulait y aller cette année, mais
ouais, 2021,
mais il y avait encore trop de problèmes en Espagne et là on est en train de essayer d'avoir la situation qui est à peu près normalement stabilisée et on va commencer à gagner de l'argent et donc maintenant qu'on a stabilisé ça, on va pouvoir regarder justement sur l'Italie plutôt, parce que l'Italie est aussi un marché qui n'est pas encore couvert par nos concurrents. Et donc, avant d'aller embêter nos concurrents sur leur territoire, on va plutôt essayer de préempter ceux sur lesquels ils ne sont pas.
Ok. On a parlé de tes équipes, du télétravail, du Covid. Moi, je voulais parler un peu de ton management, parce que j'ai lu dans beaucoup d'articles te concernant que tu cites un livre d'Isaac Goetz.
Ouais.
Et on dit Goetz, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Ouais. Et tu dis que tu l'offres à chacun de tes employés quand ils arrivent chez Recycle Livre. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Sur quoi repose ton management?
Donc, le livre d'Isaac Goetz auquel je fais référence, c'est Liberté et
compagnie.
Qui est un livre un peu de référence sur ces sujets de management qu'on appelle libéré. Moi, il se trouve que, j'emploie souvent le mot liberté, je l'ai employé au début sur la manière dans laquelle j'ai été éduqué, la manière dans laquelle je finance aussi la boîte ou ne la finance pas. Et de la même manière, j'ai tout de suite conscience que, en fait, moi, ça ne m'intéresse pas de micromanager les gens. Je pense que c'est la perte de temps. Je pense que plus on leur donne d'informations pour être au mieux, pour pouvoir accomplir leur mission, c'est comme ça qu'ils s'accompliront les plus belles choses et les choses les plus performantes. Chez nous, je fais une parenthèse simplement, mais en fait, il y a une donnée qui n'est pas accessible à tout le monde, c'est le salaire de chacun.
D'accord.
Parce qu'on a considéré que connaître le salaire de ton voisin ne t'aide pas mieux à faire ta mission que de ne pas le connaître. En revanche, tous les autres chiffres, le chiffre d'affaires qu'on génère, la marge qu'on génère, combien coûte l'ensemble des salaires, etc., tout est accessible à tout le monde.
D'accord.
Donc, moi, en fait, dès le début, j'ai laissé beaucoup d'autonomie à tout le monde. J'ai dit, évidemment, faites le maximum d'erreurs pour apprendre. C'est facile à dire comme ça, mais il faut prendre sur soi beaucoup de fois parce qu'on la voit l'erreur, on l'a déjà faite nous, on sait où ça va, mais on se dit non, il faut laisser chacun faire ses erreurs. Après, on encourage l'erreur, en revanche, on sanctionne la faute, la différence entre l'erreur et la faute. Voilà.
D'accord.
Et en fait, de façon assez personnelle aussi, c'est que souvent, quand on est avant d'être entrepreneur ou quand on est solo-entrepreneur, c'est entre guillemets la liberté. On se dit, on est libre, on peut faire ce qu'on veut.
Ouais.
Et en fait, dès qu'on a le premier collaborateur, ben, en fait, on n'est plus libre. C'est-à-dire que demain, quand on a le premier collaborateur, si on dit, bon, écoute, moi, ça me gonfle, là, j'ai envie d'arrêter ce truc. C'est plus compliqué.
Ouais.
Légalement, c'est compliqué aussi d'arrêter une boîte. À partir du moment où il y a des collaborateurs et que la boîte gagne de l'argent, c'est pas très facile.
Ouais.
Donc en fait, on redevient prisonnier un petit peu du truc et on perd cette liberté de pouvoir partir du jour au lendemain et dire. Voilà. Et moi, je savais que la meilleure manière de la retrouver, c'était que les collaborateurs soient autonomes et que ça me permette de me libérer de tout ce que je faisais.
D'accord.
Et de ne plus être indispensable. Moi, quand je parle souvent quand on me demande de parler souvent d'entreprise libérée, je dis, mais en fait, sous le côté c'est libérateur pour les collaborateurs, etc., je dis, mais en fait, c'est libérateur pour le chef d'entreprise. Parce que d'un seul coup, il peut partir et puis ça continue, en fait. Et moi, je me souviens quand je suis tombé sur ce livre-là, je me souviens, en fait, je m'étais inscrit à un colloque je sais plus quel était le sujet, mais enfin, il y avait plein d'ateliers.
Ouais.
Puis ça fait partie de ces moments où tu dis, mais qu'est-ce que je fous là, j'ai plein de trucs à faire, autre chose que des gens pendant une journée, machin. Et en fait, je vais dans une conférence, je me souviens plus le titre, et puis là il y a un gars qui raconte son aventure. Et il parle du coup de ce bouquin-là.
Ouais.
Je me souviens, je suis encore sur le siège et je le commande en ligne. Et en fait, ce bouquin était une révélation parce que pour moi, c'est plein de choses que je faisais en fait inconsciemment. C'est plein de choses que je ne faisais pas, mais sur lesquelles je me posais plein de questions.
Okay, ouais.
Et dans lesquelles il y avait réponse dans ce bouquin-là. Et je découvre que en fait, c'est entre guillemets un concept, l'entreprise libérée. Je n'avais jamais entendu ce mouvement avant. Et donc après, moi, je lis évidemment énormément. Moi, je lis beaucoup, un peu moins en ce moment, mais je lis beaucoup de bouquins justement sur le management, technique, etc. Et j'ai appris beaucoup de choses à travers les livres. Et moi, ce bouquin a été une révélation parce que c'est un bouquin qui est très facile à lire et qui est bourré d'exemples pratico-pratiques et qui s'appliquent dans n'importe quelle boîte, etc. Et d'exemples d'expérience d'avant. Et donc je me dis, ah, c'est génial ce truc, c'est ça quoi, tu vois, c'est ce que je fais, machin. Et puis du coup ça te donne des orientations. Et donc aujourd'hui effectivement on offre à chaque collaborateur ce livre-là pour expliquer un petit peu quel est le concept, et s'il a envie de creuser. Alors je pense que 95% des personnes qui reçoivent ce bouquin ne le lisent pas et le remettent peut-être en vente sur l'application de rachat parce qu'ils se vendent très bien. L'intention est là. L'intention, c'est de se dire si tu as envie, et c'est un peu ce qu'on fait aussi chez Recycler, c'est-à-dire que tout est possible, les portes sont ouvertes, après c'est à toi de vouloir y aller ou pas.
Mais concrètement, comment ça marche? Parce que tu recrutes quelqu'un, il a un cadre quand même, tu as un boulot dédié, etc. Mais comment ça marche en fait? C'est-à-dire qu'il travaille sur les sujets, c'est avoir de l'initiative, avoir...
Alors nous, on a structuré la boîte suite à on avait commencé à amorcer ça, mais suite à mon retour, on a pas mal, chamboulé de choses.
Ouais.
Il y a eu pas mal de turnover au moment où je suis rentré.
D'accord.
Parce que... comme je disais, on avait eu des problèmes, des difficultés RH avant que je parte qui ne sont pas calmées quand je suis parti. Et du coup, ces personnes qui n'étaient plus forcément dans la vision de la boîte, il y avait un petit groupe de personnes qui ne ramaient plus ou ramaient à l'envers, qui a fait pas mal qui nous a causé pas mal de difficultés, etc. Mais. On arrive à faire un séminaire entre deux confinements l'année dernière au mois d'octobre. Et là, moi, je réaffirme la vision en disant, notre vision, c'est de gagner de l'argent et de faire les choses correctement pour l'homme et la planète. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chez Recycli, une première partie de personnes qui étaient venues sur le côté un peu militant,
c'est-à-dire
on fait les choses correctement, on rend de l'argent aux assos, machin. Et peut-être un peu et moi la vision je l'avais peut-être laissée comme ça et sans vraiment l'affirmer, et là en rentrant j'affirme clairement la vision en disant voilà, moi c'est ma vision. Moi, c'est ma vision, c'est de se dire
c'est pour
d'être
ça
une
ton
alternative,
œuvre.
D'être une alternative entre des boîtes du CAC 40 et l'association, et d'être là au milieu et de faire le pont entre les deux et de montrer et d'être un exemple. Et donc, dans ce cadre-là, ben, oui, il y a un aspect financier important. Oui, on a reversé des dividendes et on va continuer à reverser des dividendes parce que pour moi, c'est un marqueur aussi de dire ben, en fait, les investisseurs qui sont venus. Ils sont venus parce qu'il y a un projet, mais eux aussi, il faut qu'ils retrouvent, faut rémunérer le risque qu'ils ont pris. Et donc, il y a des personnes à qui ça a heurté, ça. Et donc, moi, j'ai dit, écoutez, voilà, ça, c'est la vision. Je ne vais pas la tordre pour vous. Donc, en fait, soit vous vous retrouvez dans la vision et super, on y va, soit vous y retrouvez pas et puis, posez-vous la bonne question à se poser. Quoi. Donc, il y a eu des départs aussi, là. Mais donc... L'important, je pense, c'est d'arriver avec une vision claire et après, sur comment est-ce qu'on a réorganisé la boîte, c'est autour de cette vision, en fait, on a organisé la boîte en deux, sur deux jambes. Il y en a une qu'on a appelée le run, qui permet, qui fait toutes les l'opérationnel, et puis une autre qu'on a appelée le build, qui construit les projets de demain,
okay.
Avec évidemment des personnes qui sont dans l'un ou dans l'autre, etc. Et puis, au sein du run, on a fait des cercles. Donc, il y a le cercle vente, le cercle collecte, le cercle dev, le cercle marketing, communication. Après, il y a des personnes qui ont des postes transverses. Mais, et donc, au-delà donc de ton poste,
ouais.
Tu peux t'impliquer dans plein de choses différentes dans la boîte, dans des cercles dans lesquels tu n'as pas été recruté pour ça.
Mais
tu peux avoir des compétences et des appétences pour des choses comme je sais pas, l'onboarding, par exemple. Mm-hmm. Il y a tout un groupe de travail sur l'onboarding ou sur l'outboarding, se dire bah en fait moi ça m'intéresse.
J'aimerais bien.
Au-delà de ça m'intéresse, c'est je peux apporter quelque chose parce que ça m'intéresse. Tu peux être intéressé partout, t'inscrire partout. bon, okay, super.
On veut vraiment une plus-value à ta participation.
Fais, voilà, comment est-ce que tu fais avancer les choses?
C'est ça.
Donc est-ce que t'as évidemment il faut être intéressé, il faut avoir une appétence et est-ce que t'as des compétences que tu peux mettre à un moment dans le projet ou tout le temps. Donc c'est ça. Là par exemple, on a quelqu'un, on est en train de recruter des devs. C'est un peu compliqué de recruter des devs, comme tout le monde le sait. Et là, il y avait Marine et Gabriella qui faisaient le dernier entretien, qui est un entretien un peu feeling, avec une personne en visio. Mais en fait, c'est Marine qui a dit, bah, écoutez, moi je la vois là, qui veut m'accompagner dans la... J'ai rendez-vous en visio à 16h, qui veut participer, machin. Et donc, c'est comme ça que ça se matérialise.
C'est un esprit d'équipe et une entente, et ouais. Après, pour bien travailler ensemble, en fait.
Ouais,
avec bien évidemment des compétences, etc. Mais c'est aussi l'esprit d'équipe.
C'est complètement l'esprit d'équipe. Et puis, c'est de se dire, en fait, la personne, le moment où elle franchit la porte de l'entreprise, elle n'a pas... C'est-à-dire que sur les données qu'on laisse accessibles, de chiffre d'affaires, etc., c'est de se dire, en fait, cette personne-là, ça se trouve, elle a pris des responsabilités familialement, acheter un appartement, pris un crédit, elle gère son budget. Et pourquoi est-ce que, en fait, en franchissant la porte de l'entreprise, elle n'est plus capable de le faire?
Ouais.
Et donc, se dire, en fait, elle est tout à fait capable. Et plus tu lui expliques, plus elle comprend, en fait, quelles sont ses actions.
Et où est-ce qu'elle peut avoir un impact, etc.
Et voilà, donc nous, c'est comme ça, ça m'a permis... Et donc, je reboucle, mais ça m'a permis de partir en voyage, justement, ouais. parce qu'il y a ces personnes qui sont responsables. Après, il y a plein de travers par lesquels on est passé. Évidemment, c'est pas un chemin calme
facile,
et tranquille.
Voilà.
Quand on met ça en place,
faut bâtir ce type de
il y a le, il y a le, on dit bah on est libre, on peut faire ce qu'on veut. Bah non, en fait,
c'est pas
ça. Il y a un cadre en fait.
Oui, voilà.
Il y a un cadre.
C'est dans ce cadre
et là,
on
définit ensemble le cadre. Et en revanche, bah tu dépasses du cadre, les gars, bah tu rentres dans le cadre. Alors, si tu veux pas rentrer dans le cadre, bah là il y a un problème.
Il y a un problème, ouais. Ok, on parle beaucoup de Recycle Livre depuis le début quand même, mais ouais. Tu as créé une deuxième entreprise qui s'appelle Bilberry Team.
Ouais, alors ça c'est un projet d'entreprise.
Un projet d'entreprise,
ouais,
d'accord, ok.
Et qui est en fait un produit tech,
d'accord.
Qui c'est deux produits, c'en est un qui fait de la la gestion d'entrepôt.
D'accord, oui.
Donc, qu'on a déployé donc, chez Loggins, chez Loggins en France, et qu'on vient de déployer chez Sifu, qui est notre logicien, qu'on vient juste de changer de logicien en Espagne, qui est un grand groupe en Espagne, c'est 4000 personnes.
Ah oui.
Et qui, 4000 personnes. Et encore une fois, avec une thématique qui nous est
cher.
Proche, chère, oui, tout à fait. C'est des personnes, et en plus des personnes en situation de handicap.
D'accord.
Donc, on est très content de cette collaboration ensemble qui démarre très bien. Donc ça, on a déployé ça chez notre logicien aussi.
C'est un logiciel de gestion, voilà,
de
l'entrepôt,
des flux, de réception de marchandises, de chemin, de ce qu'on appelle de chemin de picking pour aller chercher les livres, pour faire le moins de pas possible, que les trucs soient plus proches, voilà.
Donc, tout organisé le plus efficacement possible.
Voilà, et de préparation de commandes, de étiquettes, emballages, enfin voilà. Sur lequel tout le monde peut suivre la productivité, le machin, le truc, donc c'est assez chouette.
C'est
sachant qu'on l'a pensé, mais surtout on l'a pensé aussi, on a essayé de le penser pour prendre en compte le handicap, justement.
Ouais. Ah oui.
Et que, en fait,
accessible,
les personnes, alors accessible, oui, pour grossir, etc., pour les personnes malvoyantes, mais après, sur des handicaps physiques, par exemple, ben, que des personnes. Qui ne peuvent pas se baisser, en fait, dans leur mission de picking.
Ah oui, ça soit adapté à prendre le truc tout en bas.
Elles
ne
peuvent pas aller
chercher
les trucs tout en bas. Donc ça, ouais. c'est un peu novateur.
Je ne peux pas te proposer Amazon, parce que parfois, avec leurs employés, il y a des petits... Je te poserai la question tout à l'heure sur Amazon, le fait de bosser avec Amazon.
et donc, un autre produit, qui est un produit d'organisation et de traçabilité de produits, d'organisation de tournée, pardon, et de traçabilité de produits. Nous, on organise des tournées tous les jours dans les villes où on est en France. Les livres, on les trace parce que quand on va aller chercher un partenaire, en fait, on suit toute sa vie pour pouvoir rémunérer le partenaire quand il est vendu.
D'accord, oui.
Et en fait, il y a d'autres activités qui avaient besoin du même type de produit. Et donc, on a développé cet outil et on travaille aujourd'hui avec des entreprises qui sont assez proches des nôtres. Phoenix, Lemon Tree, les alchimistes, pour organiser leur tournée et de traçabilité.
Alors, Lemon Tree, les alchimistes, c'est moi.
Alors, les alchimistes, ils font du compostage urbain, donc ils vont récupérer des invendus ou dans des magasins ou restaurations collectives.
Pour les amener au site de compost.
Et donc là, il y a un enjeu de traçabilité sanitaire aussi.
Ouais,
parce que, en fait, s'il y a un problème sanitaire, il faut qu'on puisse remonter les lots.
Où est-ce qu'il y a
Voilà. Et les Lemon Tree, ils font la même chose, mais sur de la canette, de l'emballage, des bouteilles en plastique, etc.
Ok. Voilà. Donc là, c'est déjà déployé. Donc c'est. D'accord, mais ça marche bien.
Ouais. On est content.
Et donc Amazon.
Nos clients sont contents.
Parlons-en. Amazon. Ouais. Travailler avec Amazon quand on est en entreprise à impact, entreprise qui fait attention à l'environnement, qui est engagée au niveau humain. Ouais. Comment ça se passe? Est-ce que tu pouvais pas t'en passer ou est-ce que ça t'a posé question? Est-ce que ça a été un point d'interrogation
Alors, si Amazon n'existait pas, Recyclivé n'existerait pas.
Ouais.
Le premier livre que j'ai vendu. Comme j'ai mis en vente mes livres le vendredi soir, et le samedi matin, à 4h du matin, il y avait une vente. Ça, c'est parce que j'étais sur Amazon.
Okay. C'était une boutique sur Amazon.
Donc, pendant tout le début, on est sur Amazon. Après, on a ouvert sur d'autres places de marché, la Fnac, Rakuten, Abibooks, bref, quelques autres. Est-ce que jusqu'à l'année dernière, jusqu'à il y a 2 ans, avant le Covid, en fait, on avait encore une dépendance vis-à-vis d'Amazon. C'est-à-dire que si Amazon refusait qu'on rentre chez eux, on gagnait plus d'argent et on commençait à en perdre.
Très bien, d'accord. Oui. Ils prennent quelque chose sur quand tu vends des choses.
Ils prennent 23%.
Ah oui.
Ça fait beaucoup.
Oui. Et ils se mouchent pas du coup.
Non. Donc ils prennent beaucoup. Alors nous, ils prennent ce taux-là parce qu'on vend des choses pas chères et qu'il y a des coûts fixes qui font que... Ouais. Voilà, mais en gros, nous, en moyenne, on a 23%. Donc c'est très élevé.
Oui.
Après, ce qui a permis le Covid, c'est que a permis justement à des personnes de prendre conscience qu'il y avait des équivalents français, occasions, qui payaient leurs impôts en France, qui faisaient attention aux collaborateurs, etc. Et que, le livre qu'on vendait à travers Amazon, en fait, c'était exactement le même que sur la boutique. Et donc, nous, on a eu deux choses. On a eu plus de clients qui nous ont connus, et puis on a eu un transfert de clients d'Amazon vers chez nous. Et aujourd'hui, on parle pas des poids de chacun, mais aujourd'hui on est indépendant de toutes les plateformes. Donc c'est okay. à dire que n'importe quelle plateforme arrête de nous
de vendre, tu peux t'en sortir.
Si elles arrêtent tout en même temps, on ne pourra pas.
Choisissez-vous bien vos moments, s'il vous plaît.
Si Amazon arrête de vendre, on gagnera moins d'argent, donc on pourra moins investir, mais on continuera à développer, etc. Donc ça, c'est ce que ça nous a permis.
C'est une super réussite.
Le Covid, c'est ce que ça nous a permis, parce que, encore une fois, la liberté et la dépendance, moi, c'est quelque chose auquel je courais après depuis 12 ans, et c'est arrivé. Et on a moins cette épée de Damoclès qui est sur la tête de pas mal de vendeurs français qui vendent sur Amazon.
C'est une grande réussite.
Après, ça n'arrive pas non plus
comme ça, il faut du temps.
Et il se trouve que oui, les mentalités ont changé et qu'elles auraient changé, mais je pense que le Covid a accéléré les choses.
Cette prise de conscience,
Donc,
les scandales aussi, parce qu'Amazon, vu tous les articles qui sortent sur le traitement des personnes dans les entrepôts aux États-Unis, peut-être moins en Europe, mais surtout beaucoup aux États-Unis, où tu te dis, hey, les mecs,
Et après, sur pourquoi continuer à vendre sur Amazon, parce qu'on pourrait très bien s'arrêter de vendre, nous, encore une fois, notre philosophie, c'est de dire on veut être incitatif. C'est-à-dire que moi, aller convaincre des personnes qui pensent déjà comme nous, je prends des militants de la première heure, le job pour nous, il est fait. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qu'on va convertir. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller convertir à la rencontre de personnes qui, aujourd'hui, ont des modes de consommation qui pourraient changer sans faire trop d'efforts, et voire pas du tout d'efforts, voire des gains, et de leur dire, écoutez, regardez, il y a autre chose, et nous, on a envie de vous convaincre. Et donc, venez chez nous, ayez une expérience chez nous, et vous verrez que ça sera la même, voire mieux. Et donc, pourquoi est-ce qu'on continue à vendre sur Amazon? Parce que c'est des contacts qu'on fait via... c'est des personnes typiquement qui... achète toute l'année sur Amazon, qu'on a envie de convaincre. Donc, on a envie d'avoir accès à ces gens-là.
À quoi tu mesures le succès de Recycle Livre et de Bilberry Team et de Recycle Livre? C'est quoi ta plus grande? Parce que là, c'est une réussite d'être indépendant. Mais à quoi tu mesures? Est-ce qu'il y a un élément qui te dit... Et puis, ça relie aussi avec les galères que tu as pu avoir, les choses comme ça. Est-ce qu'il y a vraiment des moments... Déjà, première partie de la question où tu t'es dit... on va mettre la clé sous la porte, c'est bon, je suis saoulée, laissez-moi tranquille. Mais tu sais que tu zappes beaucoup ça. Et puis là, maintenant, parce que moi, j'ai lu, il y a des chiffres qui sont sortis depuis la création de Recycle Livre. On estime qu'avec tout ce que vous avez vendu en seconde main, il y a 1 milliard 420 millions de litres d'eau économisant en donnant une seconde vie au livre via Recycle Livre. Voilà, comme tu le disais l'année dernière, c'est 100 000 euros donnés à des associations qui luttent contre l'illettrisme, le travail peut-être des gens à sortir de la mouise ou de l'exclusion. Bon là, je pense que c'est de la fierté pour toi et tes équipes, mais est-ce qu'il y a vraiment quelque chose?
un milliard de litres d'eau, ça ne dit peut-être pas grand-chose, c'est 10 millions de baignoires, quoi, en gros. Après, pour revenir sur la première question sur les galères, moi j'ai cette capacité à oublier, mais on parlait juste avant d'Amazon, et clairement, il y a eu plusieurs fois dans l'histoire de Recycle Livre, Amazon nous a coupé pour des raisons d'algorithme, pour des raisons mystérieuses, qu'eux n'arrivent même pas à comprendre pourquoi. Mais quand ça fait 70-80% de votre chiffre d'affaires, et que ça dure une semaine, deux semaines, et que vous ne gagnez pas non plus des milliers, des cents, et que vous avez des salaires à sortir, là c'est dur. Mais après, la fierté, c'est un peu la tarte à la crème, mais c'est l'équipe. Moi je suis hyper content de travailler au quotidien avec vraiment une chouette équipe et vraiment des personnes voilà, qui sont vraiment en or et qui sont
dédiés
au projet, l'envie, et comme je disais, on a renouvelé pas mal d'équipes,
ouais.
et on a gardé évidemment que les meilleurs, et qui sont motivés comme jamais, et des nouvelles personnes qui arrivent et qui sont aussi et qui nous font découvrir d'autres choses, parce que au fur et à mesure qu'on grandit, on embauche des personnes qui sont plus seniors, et donc là c'est ce qu'on fait, et donc on va sur des terrains voilà, sur lesquels on n'est pas encore allé, qui restent à explorer. Et puis moi, ma plus grande fierté, c'est de se dire comment est-ce qu'on, avec ce qu'on a monté Recyclivre, dans quelle mesure ça influence d'autres entrepreneurs, ouais. entrepreneuses, pour se dire mais c'est possible, je ne suis pas cantonné à faire quelque chose qui a du sens dans l'associatif et pas bien gagner ma vie, ou je vais dans une boîte de conseil pour machin. Et on peut faire les deux, et on peut très bien gagner sa vie en faisant de l'impact. Et moi, la plus grande fierté que j'aurais, c'est d'avoir inspiré d'autres entrepreneurs ou entrepreneuses.
Quand tu parles d'avoir un impact, j'ai lu que vous étiez, que Recycle Livre était membre de mouvement Impact France, le mouvement des entrepreneurs sociaux et écologiques. C'est ça ? C'est via notamment ce genre de groupement.
Notamment via ça, on est membre de, on est labellisé aussi
Bicorp.
Bicorp. Et puis moi, à titre personnel, j'interviens aussi. À l'ESSEC, dans la chaire d'entrepreneuriat social de l'ESSEC, dans lequel on accompagne c'est accompagner des entrepreneurs, des entrepreneuses, que ce soit un petit peu entreprise ou associative, pour les aider à monter leur projet, enfin pas forcément à monter, mais pour les aider à changer d'échelle, soit voilà. Donc moi j'interviens là dans ce cadre-là, et puis c'est quelque chose qui est hyper enrichissante.
Tu parlais de nouveaux terrains à explorer avec ton équipe. Est-ce qu'il y a des choses dont tu peux nous parler là, qui sont en préparation pour les mois à venir, ou c'est secret ?
Non, enfin, il y a des choses secrètes, mais après, sur les choses qu'on explore, c'est aujourd'hui, on n'a jamais fait de marketing, et donc là, on commence à s'y mettre un peu.
Ouais.
Donc, je disais, on a lancé une application de rachat de livres. Là, on va sortir la V2 dans 15 jours, là, à peu près. Et puis après, il y a un autre gros projet, mais dont on ne parle pas, qui va sortir d'ici à la fin de l'année, un projet assez structurant pour les années qui viennent, sur lesquelles il y a des personnes qui travaillent chez nous déjà dessus, qu'on a embauchées.
D'accord, donc vu que ton épisode sortira en novembre, il suffira d'attendre encore un ou deux mois pour être au courant de ce qui va se passer. Suspense. Donc travailler, c'est bien, mais quand tu fermes la porte de Recycle Livre et de Bilberry Team, qu'est-ce que tu fais ? Donc j'ai lu dans un article que tu dis que tu prenais une journée par semaine pour faire autre chose. Qu'est-ce que tu fais pendant cette journée par semaine ?
Alors, pendant cette journée par semaine, c'est le jeudi.
C'est défini. D'accord.
Ça fait quelques années que j'ai mis ça en place. J'ai essayé plein de choses avant, des demi-journées, ça ne marchait pas, etc. Et donc, j'ai pris le jeudi pour m'extraire de la boîte. Et moi, j'ai besoin de faire du sport, donc je vais faire du sport le matin. Je vais faire beaucoup de sport le matin.
D'accord, tu fais quoi comme sport ?
Je vais faire du vélo ou courir.
D'accord.
Ou les deux. Et après, je vais chercher mes enfants à l'école. Une fois par semaine, ils ne mangent pas à la cantine.
C'est cool, ça, c'est bien.
Donc, on se passe un petit moment tous les quatre à l'heure du déjeuner. Donc, ça, c'est sympa. Et puis après, l'après-midi, je fais pas mal de... je surfe sur internet pour aller découvrir des trucs, et moi je travaille beaucoup par association d'idées.
D'accord.
Où je lis des bouquins sur des sujets, ou des bouquins d'entrepreneurs et tout, et moi je travaille beaucoup avec des associations d'idées, et de dire bah, tiens, c'est marrant ce qu'il a fait là, et comment est-ce que je pourrais l'utiliser dans notre business et machin. Et c'est des journées qui sont on pourrait dire, pas productives dans le côté opérationnel, oui, voilà, et machin, etc. Mais c'est des journées qui sont nécessaires et que si j'avais pas ces journées-là, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui parce que moi, j'ai beaucoup d'idées en courant, bizarrement. Ça doit libérer des choses, tout ça doit faire des connexions dans mon cerveau, ouais, qui ne se font pas avant. Et puis, comme je dis, je lis beaucoup sur d'autres sujets et je m'intéresse à plein d'autres sujets.
Tu as des passions et... comme ça, des choses vraiment qui...
Bah, moi, c'est de tout ce qui est tech, ouais, enfin, oui, tout ce qui est entrepreneuriat, oui, tout ce qui est forme de management différent, tout ce qui est business model différent, voilà. Donc moi, c'est un peu ce que je fais le jeudi, ouais.
Ouais. Et t'arrives vraiment à fermer la porte de Recycle Livre
Non, je vais pas dire que le jeudi,
Oui, c'est vraiment.
Mais si j'ai besoin et si j'ai envie de travailler sur un truc pour la boîte, ouais, je travaille pour la boîte parce que ça m'amuse, parce que c'est voilà quoi, tu vois.
Donc, t'as parlé de ce grand voyage en famille avec tes, ouais, enfants et avec ta femme. Est-ce qu'il y avait un réel besoin par rapport à couper, oui, par rapport professionnel? Est-ce que tu peux, oui, nous en parler un petit peu plus?
C'est, ouais, bah, je pense que c'était moi, je suis parti en août 2019, pardon, et je suis rentré en août 2020. 2019, ça faisait 11 ans que j'avais créé Recycle Libre. Voilà, moi j'avais besoin de souffler, j'avais besoin de. Il se trouve que mes trois enfants, j'ai eu la chance d'avoir des jumeaux. J'ai eu une fille, j'ai près de 3 ans après des jumeaux, donc c'était des années qui ont été compliquées, qui ont été très très intenses.
Voilà, faut le clos.
Besoin de souffler un peu et de se dire on va recharger les batteries pour repartir pour les 10 ans qui viennent.
C'est facile, papa chef d'entreprise.
Ouais, bah, maman, elle est un peu chef d'entreprise aussi, ouais, parce qu'elle est à son compte, donc ouais, forcément, ouais, voilà. Et puis on est très disponible pour eux, non, ça, je pense pas qu'ils en ressentent, ouais, un quelconque problème, mais non, j'avais besoin, moi, ouais, j'avais besoin de souffler, quoi.
Ouais. Ouais. C'est dur d'être un patron. Comment tu le visualises, toi, ce job de patron? Et c'est ce que tu t'étais imaginé?
En fait, ce qui est dur, c'est toutes les premières fois.
Ouais.
En fait, c'est bête, hein, mais tout ce qui est dur, c'est les premières fois.
Okay.
C'est-à-dire la première fois où il y a Amazon qui vous coupe, la deuxième, la troisième, ça se passe mieux. La première fois où vous allez au tribunal, vous avez un prud'homme, alors j'en ai eu qu'un, donc je ne peux pas parler de la deuxième, mais en tout cas, je pense que je le prendrai de manière plus détachée la deuxième fois que ça arrivera. J'espère, ouais, que ça n'arrivera pas.
Ouais.
Mais, voilà, en 13 ans, il y en a eu un, donc qui est un sur une personne qui est venu chez nous 3 semaines, donc je laisse imaginer
la stupéfaction.
ouais. Donc voilà, la première fois, voilà, toutes les premières fois sont dures, parce qu'on apprend.
La solitude, c'est souvent, moi, ouais, on parle, après, moi, se sentir seul.
Ouais, moi j'ai monté la boîte tout seul. Moi, je suis quelqu'un qui est assez solitaire, ouais, donc c'est pas quelque chose qui me pèse.
T'étais formé pour.
Ouais, et puis je disais, on a des super investisseurs chez nous qui, ouais, pareil, deuxième fois, c'est-à-dire que la première fois, on promet plein de choses et puis en fait il se passe rien. Donc la deuxième fois, quand on choisit les suivants, tu te dis bon, ok, c'est bien ce que vous me promettez, mais l'argent, mais qu'est-ce qu'il y a à côté, c'est quoi, vous me parlez d'accompagnement, mais c'est quoi concrètement, comment ça se passait, c'est qui, etc. Et c'est un fonds d'investissement qui s'appelle Investir et Plus et qui base tout son modèle d'investissement sur l'accompagnement,
okay,
c'est-à-dire en fait s'il n'y a pas d'accompagnement, si toi tu veux pas d'accompagnement, bon, en fait nous on vient pas chez toi.
Oui, bien sûr.
Voilà. Et donc j'ai jamais été seul parce que j'ai eu un super accompagnateur, Emmanuel de Courcelles, qui est avec nous depuis 7 ans. Moi que je vois plus maintenant, justement parce que j'ai passé le relais à Marine et d'autres personnes de l'équipe, donc ils voient plutôt. Nous on se voit, mais sur d'autres, ouais, sujets, voilà, mais sur les sujets opérationnels de business pur, c'est plus moi, mais ils continuent à accompagner. Voilà, c'est des personnes qui font ça quand même de façon bénévole, voilà. Donc j'ai jamais été vraiment seul, tu vois. Enfin, j'ai jamais vraiment ressenti la solitude. Après, comme je te dis, j'oublie plein de trucs.
Il y a eu dû avoir des moments un peu compliqués.
Ouais, mais c'est sûr, c'est sûr.
Mais bon, finalement, si c'était à refaire, est-ce que tu referais tout pareil? Ou il y a quand même des choses où, en faisant le bilan depuis 2008, tu te dis, ah, peut-être là-dessus, on aurait pu... Genre, le mec qui est venu 3 semaines, casse-toi.
Ah oui, mais...
C'est lui, clairement.
Mais, oui, mais parce que tu fais des erreurs, en fait. Tu fais des erreurs, mais si tu les fais pas, les erreurs,
ouais,
t'apprends pas.
Tu peux pas en apprendre, voilà, c'est ça.
Donc, ces erreurs, elles sont inévitables et il faut les accepter. Donc, ça, j'ai pas envie de la refaire parce que je préfère que ça se passe avec quelqu'un comme lui où ça s'est passé, ouais, plutôt qu'avec quelqu'un... Enfin, voilà, qui a été là depuis plus longtemps, où les enjeux sont pas les mêmes, etc.
De la boîte.
Donc... parce que quand il y a un prud'homme, c'est que ça s'est mal passé, donc ouais. C'est pas souhaitable. Après, est-ce que je changerais les choses? Moi, je sais que demain, si je dois remonter l'entreprise, je la monterai, en revanche, pas tout seul, je pense que je la remonterai avec d'autres personnes, avec d'autres associés, parce que je pense que là, dans ces années que j'ai passées, bah, je sais où sont éventuellement mes compétences et celles que j'ai pas. Et donc, si j'ai envie de remonter quelque chose, j'ai envie de remonter quelque chose qui aille plus vite, plus haut, et donc avec les bonnes personnes tout
de suite.
Oui,
pour t'aider, ouais. Tu parlais de tes 3 enfants. Est-ce que tu penses à cette histoire de... à cette idée, pardon, c'est pas une histoire, à cette idée de succession? Est-ce qu'ils viennent chez Recycle Livre? Est-ce qu'ils connaissent? Est-ce que dans ta tête, tu te dis, oh, bah, ça pourrait devenir peut-être une entreprise familiale, ou c'est quelque chose qui te...
Pas du tout.
Non.
Enfin, j'y pense en disant c'est pas du tout ça.
L'idée.
Eux, ils ont pensé, en fait. C'est drôle, parce que c'est pas moi qui ai pensé.
Ils ont quel âge?
Ils ont ma fille, elle a 10 ans, et mes garçons, ils ont 7 ans.
Ah oui, ouais, ils sont pequeños encore.
Oui, ils sont petits, voilà. mais eux, ils ont pensé, en fait, avant moi.
Eux aussi, ils veulent être patrons plus tard,
tu
sais.
Moi, je vais reprendre l'entreprise de papa.
Les chiens ne font pas des chats.
Non, c'est pas comme ça que ça se passera, c'est pas comme ça que j'ai envie de t'élever.
Ah oui, ok.
Voilà, moi, c'est, j'ai envie de t'élever, c'est de justement
fais ta
que
vie.
Tu puisses faire des études, le maximum que tu puisses faire des études, et avoir la capacité à financer toutes les études que tu voudras faire pour te donner le maximum de chance dans la suite. Mais derrière, je n'ai pas envie que tu aies ta vie tracée dans l'entreprise de papa. Et je n'ai pas envie non plus que si l'entreprise est vendue, tu aies des centaines de milliers d'euros sur ton compte en banque. Bah, moi, je n'ai pas été élevé comme ça. Je n'ai pas d'héritage particulier. Que je pense que la plus grande liberté, c'est justement de ne pas en avoir pour pouvoir se bouger les fesses et faire ce qu'on a envie.
Puis se découvrir soi-même avant de se coller un truc que
donc
nos parents projettent sur
exactement.
Nous. Voilà. Donc, ok.
Donc c'est vraiment pas mon modèle. Non.
Ok. Dernière question de cet entretien. Si on a des auditeurs qui veulent se lancer, qui ont une bonne idée, qui voudraient se lancer, monter une entreprise, est-ce que tu pourrais nous donner tes petits conseils pour qu'ils puissent le faire de façon pas trop bancale et pouvoir se lancer dans une activité qui soit pérenne, autant que faire se peut?
Oui, bah alors les conseils, c'est parlez-en le maximum et le plus vite possible.
Ouais.
Voilà, parce que c'est pas l'idée qui fait la réussite, c'est l'exécution qui va faire d'une idée qui va en faire une réussite. Après, entourez-vous. Après, oui, je l'ai dit, recontactez toutes les personnes que vous n'avez pas vues depuis 10 ans pour aller prendre un café avec elles, parce qu'elles vous donneront peut-être des idées là-dessus. Et entourez-vous dès le début d'un bon comptable, ça c'est la base, mais malheureusement, on voit souvent des personnes qui ne sont pas bien accompagnées sur ce côté-là, et au début,
ça peut être compliqué. Des avocats.
Des avocats, même si au début on n'a pas forcément besoin, mais le comptable c'est vraiment un truc.
C'est le comptable en priorité,
Voilà. Et puis après, n'hésitez pas à aller contacter les personnes même que vous ne connaissez pas.
D'autres chefs d'entreprise aussi, peut-être, pour voir.
Qui pourront vous donner des conseils ou pas. Et si vous pouvez rentrer dans des programmes d'accompagnement. Voilà, on parlait tout à l'heure d'Entropia, l'ESSEC,
des
entreprises à impact.
Il y a Booster aussi, non ?
Ouais, ça, c'était un autre programme d'accompagnement. Mais il y en a plein.
Ouais.
Il y en a plein qui existent, suivant la thématique sur laquelle est votre boîte. Et n'hésitez surtout pas à candidater. Et c'est hyper enrichissant. Au début, on se dit, mais en fait, j'ai pas de temps pour ça, parce que c'est parce que pour le... pour en retirer le maximum, il faut passer du temps.
Voilà, il faut passer du temps.
C'est une semaine, deux semaines de workshop, de trucs. Mais franchement, c'est du temps que vous gagnerez pour après. Mm. Et franchement, c'est, ça vous permet en général de rencontrer d'autres personnes, d'autres entrepreneurs qui vont vous challenger sur votre idée. Et puis, ça vous permet d'avoir un réseau aussi, de commencer à constituer un réseau. Et moi, le réseau qu'on a aujourd'hui, que j'ai aujourd'hui, il vient principalement des études que j'ai faites et des rencontres que j'ai faites après.
Voilà, entourez-vous. Voilà. Eh bien, écoute, merci beaucoup, David, de m'avoir reçu au sein de Recycle Livre. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Puis on attend avec impatience de savoir quel est ce gros projet qui va sortir en fin d'année. Voilà, je te souhaite bon courage et puis je te dis à très, très bientôt.
Merci.
Bye bye. Merci encore à David de m'avoir reçu et d'avoir évoqué avec moi l'histoire derrière Recycle Livre et Bilberry Team. Comme d'habitude, un article dédié à l'épisode est disponible sur le site internet de Slice au www.slice-lepodcast.fr. Alors on ne se retrouve pas la semaine prochaine car je suis en vacances et je vais en profiter pour enregistrer tout plein de nouveaux épisodes de Slice. D'ici à leur diffusion et à nos retrouvailles, n'oubliez pas d'écouter des podcasts et de prendre bien soin de vous. À la prochaine, bye bye.